Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen.
Le Parlement européen, ici à Strasbourg. Incroyable, on est le 25 avril, jour historique. L'émission Backseat pose ses valises à Strasbourg, ici au Parlement européen. Très heureux de vous accueillir, chers amis. Ça a été une semaine exceptionnelle ici à Strasbourg, au Parlement européen. C'était la dernière session plénière du Parlement européen avant les élections européennes qui auront lieu, je vous le rappelle, le 9 juin prochain. Il y a eu près de 100 textes qui ont été adoptés au cours de la semaine. Il y a eu plus de 900 journalistes accrédités. Ça a été une fourmilière incroyable, le Parlement européen, cette semaine. Il y a eu aussi du coup des meetings politiques de candidats. On a eu Manon Aubry pour la France Insoumise qui a fait son meeting mardi. On a eu Raphaël Glucksmann pour Place Publique et le PS, c'était hier. Et on a eu aujourd'hui le président de la République, Emmanuel Macron. On va en parler, évidemment, un discours fleuve de 2 heures sur sa vision de l'Europe. Et pour finir cette semaine du Parlement européen en beauté, l'émission Backseat qui a lieu en partenariat. C'est la 4e et dernière émission que nous faisons au cours de cette saison en partenariat avec le Parlement européen pour parler d'Europe. Et je suis très heureux d'être très bien entouré sur ce plateau. Je suis avec Malek. Salut Malek.
Salut Jean, salut tout le monde.
Comment tu vas Malek?
Ça va, c'est un peu fou de dire quoi, salut Paris, salut Strasbourg, salut Avignon. On est un peu en tournée, c'est un peu cool.
Malek, tu es le producteur du podcast qui s'appelle Autour de moi.
Exactement, l'interview où je demande à mes invités de ne pas parler d'eux, mais de parler de ceux qui sont autour d'eux.
Eh bien écoute, très très cool d'être avec nous à Strasbourg. Malek, tu es à côté de Lorraine. Lorraine, bonsoir.
Salut.
Comment tu vas?
Très très bien, je suis à Strasbourg, je kiffe. J'attends juste mes bretzels et on est bon.
Ouais, tu nous as réclamé des bretzels dès que t'es arrivé, tu as parfaitement raison. Lorraine, tu es journaliste et tu es cofondatrice de la Cité des Chances, une association qui essaye de réconcilier les jeunes avec la politique.
C'est ça, et surtout les jeunes de banlieue et de quartiers populaires. On en parlera, ils sont un peu fâchés là en ce moment.
Ouais, on va en parler carrément et on est également avec Lorraine. Salut Lorraine.
Alors moi
on
c'est Safia. Safia.
Avec Safia.
T'as dit Lorraine.
Lorraine, je viens d'en parler, c'est Safia. Ouais.
On n'est pas encore devenus des doubles, mais...
Des jumelles peut-être.
Oui, c'est toujours moi, toujours la Cité des Chances, ouais, ça n'a pas changé. On est avec Safia, militante de la riposte antiraciste. Excuse-moi Safia.
Il n'y a pas de souci.
Tu vas bien?
Je vais très bien, merci. Alors j'ai quitté le beau soleil de Marseille pour venir dans la grisaille de Strasbourg, mais sachez que je suis quand même... Très heureuse d'être avec vous.
Est-ce que c'est la première fois pour vous trois au Parlement européen?
Oui.
Ouais?
Non.
Malek, t'étais déjà venu, toi?
Il y a longtemps.
Pourquoi faire?
C'était avec le MJS à l'époque, le mouvement des jeunes socialistes. Oh. 2011. Oh là, que...
Voilà. Ça a changé, ça a changé. Il y a eu plusieurs lores.
No offense, hein, on arrête de me tirer dessus.
J'ai rien dit,
Non, on avait fait un petit meeting à Strasbourg. On avait fait le lancement de la campagne de François Hollande en 2011, un meeting sur la jeunesse à Strasbourg. Ouais, gros programme.
Ouais.
Et on avait fait une petite visite au Parlement européen.
D'accord, ok.
J'avais 16 ans, purée. Wow.
Et Lorraine, Safia, pour toutes les deux, c'est la première fois?
Non, moi, ça non, fait trois fois, là. C'est ma troisième fois aujourd'hui.
Ok, cool. Qu'est-ce que tu venais faire les premières
fois? Je suis venue une fois toute seule, parce que j'étais venue faire le marché de Noël, manger des bretzels, évidemment. Et, et la deuxième fois, j'étais venue avec une asso.
Au Parlement.
Donc, ouais.
Ok, d'accord.
Et là, la troisième fois pour Backseat.
Ok, incroyable. Cool. Moi, je suis une novice à côté.
Toi, t'es une novice.
Ouais.
Bon, c'est quoi tes impressions?
Le bâtiment est énormissime.
Il est gigantesque.
Gigantesque. Et vraiment incroyable. Beaucoup de prestance. Dans les couloirs, moi, j'ai failli me perdre, personnellement.
Ouais. Et c'est normal, ça fait partie des traités européens. T'es obligé de te perdre. Tu te perds dans les couloirs du Parlement.
Et franchement, pour une première, c'est super classe.
Oui, c'est plutôt cool.
C'est
vrai que
archi
toi, tu
fais... incroyable. Je pourrais raconter ça à mes petits-enfants et tout. Bref.
Ouais, ouais.
Slay, comme on dit.
Exactement. 500 000 visiteurs chaque année, le Parlement européen, figurez-vous. Voilà, et Backseat, incroyable. J'ai une annonce à vous faire, mesdames et messieurs, concernant Backseat. Avant de commencer cette émission, je voulais vous annoncer que la semaine prochaine, le jeudi 2 mai, nous serons en direct de la Sorbonne à Paris, en partenariat avec Libération, pour un programme exceptionnel. On va faire un jeu de rôle avec Fibre Tigre. Fibre Tigre qui sera l'animateur d'un jeu de rôle spécial partenariat Backseat Libé. Un jeu de rôle politique, vous vous en doutez, on est en train de préparer ça, ça va être exceptionnel. On sera avec Malek, avec Léa, avec Usul, on sera avec Maudie aussi qui a accepté de venir avec nous.
Ça va être marrant.
Ça va être incroyable.
Je rigole d'un rôle.
Si vous saviez ce qui se prépare, c'est... Voilà. On va rien dire.
Ah, non, mais on va un petit peu là,
mais c'est incroyable.
La Malek, qui se retient de spoiler, mais d'une force.
Ah ouais, ouais, non, non, ça va être fou. Ça commence à 17h, vous pourrez venir sur place, on sera dans le grand amphi de la Sorbonne. L'année dernière, on n'était que dans l'amphi Richelieu, pardon. Cette fois-ci, on sera dans le grand amphi de la Sorbonne, celui où il y avait Macron, là, cet après-midi, pour son discours sur l'Europe.
Tu veux dire que Macron était... dans l'amphi où nous on va faire
voilà, c'est ça.
Oui voilà c'est ça, dans c'est l'amphi Backseat, c'est ça, back-seat. Ouais, c'est ça. Dans l'amphi Backseat. Et voilà, il n'y aura pas François Hollande, carrément pas cette année, ça c'est sûr. Non, deuxième truc qui va se passer après le jeu de rôle avec Fibre Tigre, on va continuer, on sera toujours en direct sur ma chaîne, en partenariat avec Libé, on va faire un grand oral des candidats à l'élection européenne. Les têtes de liste seront là, à l'exception de l'extrême droite comme d'habitude. Toutes les têtes de liste seront présentes sur ma chaîne pour venir les unes après les autres. Ce ne sera pas un débat, ce sera un grand oral. Ils et elles vont se succéder pour venir répondre aux questions, à mes questions et aux questions des journalistes de Libération. Ouais, Malek ?
Rien à voir, mais moi je voulais... parler d'une petite initiative qui m'occupe un petit peu là ces dernières semaines.
Oui, en ce moment, toi aussi, tu bosses sur un gros truc.
À l'initiative d'un rappeur qui s'appelle Tiff, que j'aime d'amour, et de son label Houma Suite Houma, on a décidé d'organiser un concert caritatif pour la Palestine, au Zénith de Paris. Vous avez l'affiche. Le concert est déjà sold out. Voilà, grosse line-up. Wow. On a lancé ça hier et ce matin à 8h35.
Genre en 24 heures, c'est sold out, quoi.
En moins de 24 heures. J'ai reçu un message ce matin pour me dire que c'était fini. Mais voilà, vous pouvez vous inscrire quand même sur le site parce qu'il y a... Vous pouvez vous inscrire à la liste de rappel et puis vous pouvez faire des dons. Les dons seront reversés à Medical Aid for Palestinians, qui a été choisi parce que même si l'accès est entravé, l'accès humanitaire est entravé à Gaza, cette ONG bosse en continu depuis 82 là-bas.
C'est incroyable, voilà. Bravo. Alors moi, particulièrement, j'ai le seum entre le concert de Jul sur lequel je suis en salle d'attente, enfin vous aussi, non ? J'ai en liste d'attente sur le concert, moi j'en peux plus.
Et petite, je salue toutes les équipes avec qui j'ai, je salue Tiff, tous les artistes qui ont accepté, toutes les équipes avec qui j'ai bossé là-dessus, que j'aime très fort. Et on a reçu tout à l'heure le dernier chiffre à 18h parce qu'il y a une petite cagnotte à côté des places que l'on peut acheter. Et on a déjà ramassé 7 906,50 €. Et voilà, et j'en suis archi content.
Bravo Malek, bravo. Et bon concert à vous. Ouais, bravo, bravo. En solidarité avec Gaza, bon concert à vous. Et pour la Sorbonne, n'hésitez pas, vous avez le lien dans le chat, les modos vous l'ont mis, vous pouvez prendre vos places pour venir assister en direct de la Sorbonne, c'est gratos. Et on a également un code promo Backseat pour s'abonner à Libé, vous n'avez même pas besoin de mettre votre carte bleue, vous avez un mois de Libé gratos juste avec le code promo Backseat. Chers amis, on va passer une émission exceptionnelle ce soir, on va parler d'Europe. Sans plus tarder, je vous propose qu'on accueille notre premier invité de la semaine. Il s'agit de MEP Assistant, a.k.a. Quentin. Salut Quentin.
Salut Jean, salut tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation.
Très content de t'accueillir sur le plateau de Backseat. Cher Quentin, je disais, tu es MEP assistant. Alors MEP, M-E-P, ça veut dire MEP, ça veut dire...
Member of the European Parliament, donc membre du Parlement européen.
Membre du Parlement européen, en gros c'est comme ça qu'on appelle les députés.
C'est ça.
Et toi tu t'appelles MEP assistante parce que tu as été assistant parlementaire au Parlement européen.
Tout à fait, donc il y a 11 ans maintenant, je suis rentré au Parlement européen, j'ai créé MEP assistant pour plein de raisons, mais du coup j'ai été assistant parlementaire pendant 6 ans et demi, donc entre 2013 et 2019. Et après, je suis parti du Parlement, je suis devenu lobbyiste, etc. Mais voilà, j'ai fait 6 ans et demi au Parlement.
Tu l'as dit, tu es lobbyiste aujourd'hui, tu n'as pas complètement quitté la sphère européenne puisque tu bosses pour la Fédération des éditeurs européens. C'est quoi ce lobby-là ?
C'est un lobby qui représente, c'est une association d'associations qui représente les intérêts des éditeurs au niveau européen. En gros, les maisons d'édition au niveau européen, partout en Europe, elles ont des intérêts. Et donc, nous, on est là pour traduire, entre guillemets, leurs besoins auprès des décideurs politiques pour influencer, par exemple, telle ou telle législation, ou leur dire, voilà, tel sujet est important pour nous.
Bon, et si on t'a invité, c'est aussi parce que tu parles d'Europe. C'est surtout ça, tu parles d'Europe sur Internet, on te retrouve sur Twitter, mais aussi sur Twitch, où tu décryptes l'actualité européenne. Ici, on est au Parlement européen à Strasbourg, c'est un lieu que tu connais bien.
J'y suis passé, comme tu disais, le nombre de fois où les gens sont allés au Parlement de Strasbourg, j'ai fait le calcul, j'ai dû passer 75 fois à Strasbourg, tous les mois pendant 6 ans et demi. Donc oui, j'ai passé du temps et je vous rassure, même moi, je me paume dans certaines parties du Parlement. Okay. Le Parlement est fait pour se paumer, particulièrement à Strasbourg. Donc vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est le bâtiment.
Donc je le disais, on te retrouve sur Twitch où tu parles du Parlement européen. Tiens, on reconnaît Isabelle Coustet, qu'on a vu à l'instant, qui est la chef du bureau en France du Parlement européen. Tu interviews du coup des personnes. C'est qui le public à qui tu essaies de parler ? Tu veux faire quoi ?
Je parle à des jeunes surtout. En gros, j'ai deux types d'audiences différentes. Sur Twitter, j'ai une audience qui va être plus professionnelle européenne, les gens de la Bureau européenne, députés, journalistes, activistes, etc. Et sur Twitch, j'ai une audience qui est plutôt jeune, des étudiants, des jeunes professionnels, etc. Mais des gens qui sont intéressés par la politique, potentiellement par l'Europe, en tout cas j'essaie de les intéresser à l'Europe, mais qui n'ont rien à voir avec la bulle. Moi je stream en français et en anglais, j'ai des gens qui viennent de partout d'Europe. Dans mon audience régulière, j'ai des Suédois, j'ai des Espagnols, j'ai des Hongrois, des Français, des Belges, etc. Et donc j'essaie de faire en sorte que ces jeunes comprennent un peu ce qui se passe à Bruxelles, comment ça marche, qu'est-ce qui s'y passe, quelle est l'actualité politique, pourquoi c'est un sujet important, pourquoi c'est un sujet dont on doit parler, pas juste une fois tous les 5 ans, mais j'ai envie de dire tous les jours.
D'accord. Les amis, si vous avez des questions à poser à Quentin, surtout n'hésitez pas. Lorraine ?
Bah, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience d'assistant ? Pourquoi tu n'es plus assistant maintenant, du coup ?
Alors, je ne suis pas parti parce que je n'ai pas aimé mon expérience d'assistant. J'ai adoré mon expérience d'assistant. Je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant, particulièrement enrichissant. J'ai acquis une expertise, j'ai acquis d'expérience, des contacts, etc. Donc, je ne suis pas parti parce que je ne voulais pas. J'aimais plus ce que je faisais. Je suis parti parce que voilà, ça faisait 6 ans et demi. J'ai dit, bon, voilà, c'est la fin de mandat. C'était le moment de faire quelque chose d'autre, quitte à revenir plus tard dans ma vie au Parlement européen. Mais voilà, c'était... Mm-hmm. Ça paraissait une transition naturelle, mais sinon, voilà, ma vie d'assistant parlementaire, j'ai beaucoup aimé parce que on apprend beaucoup de choses. Si vous comparez le boulot d'assistant parlementaire au niveau européen et à l'Assemblée nationale, c'est pas du tout les mêmes boulots.
Ah bon ?
Ouais, parce que en fait, au Parlement européen, c'est un travail qui est plus technique. Vous avez beaucoup plus d'influence, vous avez vraiment les mains dans le cambouis et vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu un assistant parlementaire au niveau européen. On lui demande pas, tiens, tu peux aller me faire un café au passage. Tu baisses la tête, tu baisses les yeux, tu dis oui monsieur, merci monsieur.
Il y a des collaborateurs parlementaires en France qui.
Il y en a, mais c'est moins la norme. C'est moins la norme que c'est moins la culture, on va dire, qu'au Parlement européen. Au Parlement européen, il y a effectivement. Enfin, je veux dire, là, je fais un peu une généralisation, hein, mais le profil, c'est vraiment des gens qui sont qui vont devenir des experts. Qui font du juridique, etc. etc. Vous n'allez pas avoir, par exemple, qu'on peut trouver à l'Assemblée nationale beaucoup de gens qui sont à temps partiel, etc. Les assistants sont à plein temps. Et après, je n'ai pas la pierre sur l'Assemblée nationale, parce qu'il faut dire aussi que les députés européens ont des moyens beaucoup plus importants pour se constituer des équipes. Hein.
C'est de le dire. Mm-hmm.
Un député européen, il va avoir 25 000 euros par mois pour gérer son équipe.
Ah ouais.
Il peut se faire des équipes plutôt solides, des gens qui vont bien payer.
En français, c'est 10-12 000.
Oui, 10-12 000, oui.
Ouais, c'est ça. Et encore.
Et encore.
Ouais, et encore, quand t'es dans la bonne commission.
Et donc, à 25 000, tu peux construire des équipes compétentes et bien rémunérées.
Mais du coup, généralement, les assistants et les assistantes, c'est plutôt des profils experts et moins militants par rapport à l'Assemblée nationale ?
Ça dépend. Ça va dépendre des partis. On va dire que si tu es dans les partis centristes, je vais schématiser, on va dire, de LR jusqu'au socialiste, on va avoir des profils plus technique. Moi, par exemple, j'ai bossé pour 3 députés différents, PPE, donc UDI, LR. J'ai jamais été militant de ma vie. J'ai jamais été en quartier ou que ce soit. J'ai été recruté parce que voilà, je suis juriste.
Ouais, pur technicien du droit européen.
J'ai appris pas mal de choses sur le terrain et je me suis constitué une expertise. Et après, cette expertise m'a permis de continuer. Après, si vous allez dans les partis verts, LFI ou l'extrême droite, là, par contre, ils vont prendre des profils plus militants ou plus marqués idéologiquement.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils bossent moins bien. Enfin,
non, ça ne veut pas dire qu'ils bossent moins bien.
C'est une autre manière de travailler. C'est une question de profil différent. Mais au bout du bout, ce que ça produit un assistant parlementaire, c'est quoi ? C'est des propositions de résolution, c'est de la négociation.
Ça va être de la négociation, ça va être des propositions d'amendements. Enfin, je peux commencer ma journée à répondre au téléphone pour faire l'agenda du député et après finir une nuit complète en négociation, en trilogue, donc entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil pour décider d'une législation. Donc on fait vraiment tout et on a vraiment l'influence qu'on va faire. On va vraiment construire la loi, co-construire la loi avec les députés, avec les lobbies, etc., etc. Donc on a vraiment une vraie influence, on peut vraiment changer les choses et à la fin. Comme je disais, un assistant est vraiment reconnu pour son travail. Les députés, alors j'avoue, je ne regarde pas assez souvent l'Assemblée nationale pour le dire, les députés européens, c'est très régulièrement, quand ils finissent leur dossier, ils vont prendre une minute dans l'hémicycle pour dire bah « voilà, je remercie mes assistants parce qu'ils m'ont aidé à faire ceci, faire cela mm-hmm. ». Il y a une vraie reconnaissance professionnelle et d'expertise.
Safia ?
Ouais, j'avais une question parce que justement, vous avez parlé en fait, de cet espace de co-création de la législation. Donc si je ne dis pas de bêtises, les assistants, les députés et les lobbies. Aujourd'hui, mm-hmm. vous avez une place qui est plutôt particulière. C'est celle de représenter, on va dire, un lobby des maisons et des éditions mm-hmm. européennes. Aujourd'hui, maintenant, est-ce que cette position vous va et c'est quoi vos gros chantiers là, à l'échelle européenne ?
Alors c'est un rôle très différent, hein, évidemment. C'est parfois un peu frustrant aussi parce que du coup, comme moi j'étais des deux côtés de la table, j'étais lobbyé et je suis celui qui fait du lobbying maintenant. Il y a des moments, c'est un peu frustrant parce qu'on lutte pendant des semaines pour obtenir quelque chose dont je sais que ça me prendrait 30 secondes de le faire en tant qu'assistant. Donc c'est normal, hein, c'est le jeu. Mais après, c'est un rôle qui me convient bien, qui est intéressant. Hein, c'est aussi quelque chose de concret hein, parce que quand on est dans la bulle européenne, dans les institutions. Voilà, on fait des choses, mais on n'a pas forcément le contact direct avec le terrain. On ne sait pas forcément quels sont les impacts concrets. Alors que moi, au quotidien, ben voilà, je vais avoir des rendez-vous avec des calls avec mes membres. Ils vont dire, ben voilà, moi, sur le terrain, c'est comme ça que ça se passe. J'ai tel problème avec Amazon, j'ai tel problème avec Google. Ce matin, j'étais à la Commission européenne pour parler d'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on protège les œuvres sous droit d'auteur des des IA, etc. etc. Donc, on parle vraiment de choses très concrètes. Donc, c'est un rôle qui est différent. Et en termes de sujets, enfin, voilà, les sujets sur lesquels je bosse beaucoup, je suis devenu un spécialiste au fil des années, grâce au Parlement européen, sur les questions numériques, droit d'auteur, intelligence artificielle. En gros, c'est mes domaines de spécialité. Et donc, je vais travailler au quotidien sur l'intelligence artificielle, la protection du droit d'auteur. Je travaille aussi sur les sujets environnementaux et parfois sur des sujets un petit peu plus random. Toi, par exemple, on travaille sur la question de la régulation des jouets parce qu'il se trouve que les livres pour enfants sont considérés comme des jouets. Donc, on doit regarder la législation, dire, bon, voilà, est-ce que ça impacte les éditeurs? Est-ce qu'il y a des choses, des effets de bord qui n'ont pas été anticipés? Et donc, du coup, c'est notre rôle aussi, parfois, d'aller dire au législateur, dire, attention, ça, vous n'avez pas anticipé cet aspect-là, prenez-le en compte. Et après, ils nous écoutent pas. Mais...
C'est quoi l'ambiance entre les personnes qui travaillent au Parlement européen? Est-ce que vous traînez entre personnes de la même nationalité, donc parce qu'elles parlent la même langue, ou est-ce que c'est les mêmes partis politiques? Comment ça s'organise? C'est le bordel? C'est peut-être aussi tout ça.
C'est le bordel, mais c'est un beau bordel.
Il y a un côté tour de Babel.
C'est un côté tour de Babel. Tu vas parler évidemment beaucoup avec les gens de ta nationalité, de ta délégation nationale, etc. Mais après, c'est vraiment international. Genre, moi, mes meilleurs potes, quand j'étais au Parlement, c'était des Britanniques, des Polonais, des Slovènes. Vraiment des gens de partout avec des expériences très différentes. Et c'est ce qui rend...
Mais vous étiez potes parce que vous bossiez sur le même sujet? Ou parce que vous étiez des assistants de collègues?
Ça pouvait être les deux, genre ça peut être on est collègues de commission, on bosse tout le temps ensemble, ça peut être on est de la même nationalité, on s'est rencontrés dans une soirée, parce qu'on parle, souvent de bulle européenne, c'est un monde dans un monde à Bruxelles, et les gens, on rencontre en permanence, tu vas en soirée, tu vas rencontrer des assistants parlementaires d'un autre groupe politique, tu vas rencontrer un lobbyiste, etc. Donc en fait, tu vas en permanence rencontrer des gens différents, avec des expériences différentes, et c'est quelque chose qui est génial. Moi, je trouve que ça a vraiment l'impression de faire un Erasmus professionnel, en fait, vraiment, quand tu bosses dans la bulle européenne.
Je le disais tout à l'heure, session parlementaire qui s'achève aujourd'hui au Parlement européen, très intense, très particulière. Tu peux essayer de nous expliquer ce que ça représente une session plénière du Parlement européen? C'est plusieurs jours où il y a plusieurs milliers de personnes qui débarquent pour négocier une dernière fois des textes?
Alors, faut s'imaginer le plénière comme étant une ruche. Vous avez pendant 3 jours et demi, donc c'est pas beaucoup, mais vous avez 10 000 personnes qui débarquent d'un coup, et c'est une fourmilière et c'est extrêmement intense. Vous prenez le train le matin, le lundi matin, vous repartez à Bruxelles le jeudi en début d'après-midi, les 3/4 des gens dans le train de retour, ils dorment. Ils dorment parce qu'ils sont sur les rotules, parce que tu as la masse de travail que tu dois faire normalement, plus en plus tout le travail que tu dois faire spécifique aux plénières, donc préparer les votes en plénière, des négociations, des trilogues, etc. etc. Et ça fait des journées très très longues et qui sont extrêmement épuisantes, et à la fin, tu es juste sur les rotules le jeudi, quoi.
D'accord. Malek ?
On parlait... Alors, c'est comment les soirées dans la bulle européenne ? Je suis désolé. Hein,
c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal. Okay.
C'est plutôt pas mal. Moi, juste un conseil, ne cherchez jamais à suivre des Polonais dans un lobby.
Ok.
Ça, c'est le conseil que je peux vous donner.
On le note.
Non, ma question, c'était tes collègues, quelle que soit leur nationalité, en réalité, ou leur bord politique, ils voyaient comment le fait que tu sois actif sur Twitch, sur Twitter ?
Alors, ça a été très particulier, parce que donc, moi, j'ai commencé mes assistants il y a 11 ans de ça.
Okay.
Pendant très longtemps, en fait, j'étais anonyme. J'ai commencé à devenir une personnalité, on va dire, connue du public il y a 3 ans. Enfin, quand j'ai reçu le prix Jean Monnet. Donc à partir de là, j'ai révélé qui je suis. Mais sinon, avant, je cachais ce que j'étais, parce que d'une part, j'étais dans le Parlement européen, j'avais pas envie de me faire virer parce qu'il y avait un vrai risque. Hein, la culture n'était pas la même. Aujourd'hui, je serais dans le Parlement européen, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Il y a 11 ans, c'était pas franchement la norme. Avant de te dire, j'ai un assistant qui fait des mèmes sur Internet. Bon, pas vraiment. Mais sinon, c'était marrant parce que du coup, il y avait des moments où j'avais des collègues qui me disaient « Ah ouais, tu connais ce mec, mais pas 600 et tout. » Et je suis là, ouais, il a l'air sympa, ce mec. Et sinon, Twitch, c'est marrant maintenant parce que ça arrive. Maintenant, je vais dans des réunions, etc. pour le boulot. Et ça arrive semi-régulièrement qu'il y a des gens qui me disent « Ah ouais, je vais juste te dire bonjour parce que voilà, je suis ce que tu fais sur Twitter et sur Twitch. C'est génial ce que tu fais, etc. » Et donc, c'est plutôt marrant, je trouve, de ce début de reconnaissance. C'est toujours un petit peu bizarre pour moi parce que ça commence tout juste, mais j'aime bien.
Tu parles d'Europe sur Internet, tu parles d'Europe à des gens, tu parles d'Europe à des jeunes, tu l'as dit tout à l'heure, tu dois être aux premières loges de ce fameux désintérêt. Il y a un désintérêt pour les questions européennes qui s'exprime majoritairement chez les jeunes.
En fait, la difficulté, c'est, je ne pense pas qu'il soit un désintérêt objectif. Le problème qu'on a avec la politique européenne, c'est que je dis souvent que c'est comme un brouillard, en fait, l'Europe. C'est les gens... Ils savent qu'il y a quelque chose à Bruxelles, mais ce n'est pas palpable, ils n'arrivent pas à voir ce que c'est. Et donc, un des objectifs, c'est d'essayer d'un peu de rompre, de mettre fin à ce brouillard et d'amener l'Europe chez eux, de les amener à se confronter ou du moins à poser leurs questions à des gens qui sont dans la bulle européenne. Et je vais raconter un truc qui m'est arrivé. Une des raisons pour laquelle je suis allé sur Twitch. Twitch, j'ai découvert via toi, Jean, quand il y a les articles qui commençaient à être faits en 2016.
Ouais.
Et j'ai fait mon premier passage sur Twitch. Et c'est le moment où j'ai décidé de faire une chaîne Twitch après les élections, en 2018, parce que je bossais sur une directive droit d'auteur, où à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, article 13, on pensait que l'Internet allait être détruit, les mêmes allaient être interdits.
Je me souviens, ouais, je me souviens.
C'était grand n'importe quoi.
La directive droit d'auteur.
Putain. La directive droit d'auteur, mais, enfin, ça paraît drôle comme ça, mais je veux dire, c'était une des campagnes les plus violentes de l'histoire de l'Europe. Je veux dire, c'était les moments où on se prenait des menaces de mort tous les jours, le rapporteur était sous protection policière, enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les youtubeurs qui s'étaient mobilisés pour ça.
Ouais.
Et un jour, donc, mon député était co-négociateur sur ce texte-là. Et un youtubeur, Guillaume Slash, que je salue au passage, avait fait une vidéo, dit, voilà, bah, j'ai reçu ce mail qui parle de la directive d'auteur et voilà ce que j'en pense. Et à la fin, il dit, bah, moi, j'aimerais bien avoir ce député sur mon plateau pour en parler. J'ai dit, mon chef, j'ai dit, allez, YOLO, vous m'envoyez, on y va. Et il m'a dit, ok, vas-y. Et donc, j'ai fait 3 heures de stream, je suis allé à Toulouse, et j'ai fait 3 heures de stream face à des gens qui étaient majoritairement opposés à moi à la base. Mmh. Et ça a été une expérience extrêmement intéressante parce que des gens qui, à la base, étaient vachement contre moi, le simple fait qu'ils puissent mettre un visage sur une législation européenne et qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de leur expliquer, vous voyez quoi, j'ai parlé de quelqu'un qui était jeune, qui comprenait Internet, etc., ça a fortement détendu l'ambiance. Et à la fin, les gens n'étaient peut-être pas complètement d'accord avec moi. Ils disaient, mais ok, ça va, c'est pas un truc de fou furieux.
Ça veut dire qu'il suffit de parler d'Europe pour dépasser le désintérêt ?
C'est pas seulement que ça permet de dépasser le désintérêt, c'est que déjà ça permet de décrypter, ça permet de réduire les tensions parce qu'en fait c'est beaucoup de frustration en fait.
Ouais, c'est vrai.
C'est beaucoup de frustration. Mm-hmm. Et le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, qui est capable d'expliquer et de mettre un sens sur ce qui se passe, eh ben ça réduit les tensions et ça permet derrière aux gens de dire, ah ouais, en fait c'est plutôt intéressant ce qui se passe. Surtout quand on regarde les enjeux européens, c'est des trucs qui sont extrêmement important, je veux dire l'environnement, etc.
Il y a un point paradoxal que je voudrais soulever et que je voudrais que tu commentes, c'est l'extrême droite n'a jamais été aussi forte en Europe et pourtant le haut scepticisme a l'air d'être passé de mode. On en parle beaucoup moins que dans les années 2000 et 2010 où l'euroscepticisme, vraiment les gens, enfin notamment l'extrême droite, ne parlait que de ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent plus sortir de l'Europe ou ils en ont peur?
Ils ont changé. En fait, je dirais que l'euroscepticisme a changé de forme. T'as raison, avant on parlait beaucoup, voilà, on vous disait faut le Frexit, etc. Mmh. etc. Mmh. Et en fait, entre temps, bah, on a eu le Brexit. Les gens ont vu que la conséquence, qu'en fait, c'était pas si fun que ça de sortir de l'Union européenne. Mmh. Et du coup, ils ont changé de discours. Hein, vous avez vu, après 2017, plus personne ne parle de Frexit, plus personne ne parle de plan B. Et en fait, il y a eu un changement un peu de stratégie dans le sens où ils ont arrêté de dire faut sortir de l'Europe et ils ont arrêté de se revendiquer eurosceptiques. Et en revanche, ce qu'ils disent dans le discours sémantique, ils disent je ne suis pas européen. C'est le nouveau discours, en fait.
Ah oui, c'est vrai.
C'est le procès en erreur.
Ils le disent tous.
Et en fait, c'est une manière de retourner en fait, le truc en disant, en fait, le problème, ce n'est pas moi, c'est des gens qui sont déraisonnables sur l'Europe. Et en fait, les gens qu'on qualifie d'eurosceptiques, maintenant, c'est ceux qui font le procès en eurobéatitude. Et en fait, quand on commence à creuser, même s'ils disent qu'il ne faut pas quitter l'Europe, quand on regarde les conséquences de ce qu'ils veulent faire, ils font un truc qui est fondamentalement incompatible avec l'Union européenne. Donc, à un moment donné, si tu pousses la logique, bah,
genre la préférence nationale, ce genre de truc, c'est fondamentalement par définition anti-européen.
Bah, la préférence nationale, si tu vas dans la désobéissance européenne, le fait que tu commences à dire voilà, le droit européen ne s'applique que quand j'en ai envie, ouais, là il y a un problème de compatibilité avec l'Europe qui va très vite arriver, même s'ils disent ah non, je suis pas frexiteur, etc., etc. Mais ça, je dirais que ça a plus changé de forme en fait, l'euroscepticisme.
Malek, tu avais une question sur les lobbies.
Oui, est-ce que tu dirais, vu que tu as été assistant et qu'aujourd'hui tu es lobbyiste, est-ce que tu dirais qu'il y a une présence plus importante des lobbies au Parlement européen qu'à l'Assemblée nationale, ou est-ce que c'est peut-être plus honnête parce que le poids des lobbies existe à l'Assemblée nationale, j'ai été collègue parlementaire et, et ils existent. je salue la Fédération du chocolat. Hein, et là...
On la salue.
Ah ouais, il a name drop.
Mais je n'en ai pas bouffé. Hein, je suis resté solide sur ça. Est-ce que tu dirais que c'est plus honnête, plus transparent? Ou est-ce qu'il y a juste un poids qui est plus important?
C'est les deux, en fait. Il faut savoir que Bruxelles, c'est la deuxième plus grande concentration au monde de lobbyistes, après Washington. Pourquoi? Parce que le droit européen a une telle importance que du coup, bah, ouais, c'est là où vous voulez peser sur les choses. Si vous voulez peser sur quelque chose, c'est au niveau européen que vous devez venir. Donc c'est pour ça qu'il y a une énorme concentration de lobby, parce que le pouvoir en réalité de l'Union européenne est extrême. Alors je sais que quand on est en France, ça paraît un peu absurde de penser qu'il y a un centre de pouvoir équivalent, voire même plus important que Paris, mais c'est la réalité. La réalité, c'est que Bruxelles, il y a beaucoup de choses très importantes qui se décident, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de lobbyistes. Et aussi, il y a une culture qui est différente. Le lobby est considéré comme étant parfaitement normal, parfaitement accepté à Bruxelles. C'est intégré, c'est organisé, et d'une certaine manière, c'est plus transparent. Et quelque part, enfin, ça touche aussi à la perception qu'on peut avoir du lobbying. Je veux dire, en France, le lobbying est souvent perçu comme étant quelque chose relevant de la corruption.
Oui.
Ce qui est faux. Oui. Ça n'est pas de la corruption. Le lobbying, au contraire, c'est quelque chose qui est même... Je finis juste sur ça.
Vas-y,
qui est quand même essentiel à la démocratie. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, en fait, que c'est essentiel à la démocratie. C'est Transparency International qui dit le lobbying, c'est quelque chose qui est important parce que, en fait, il n'y a rien de pire si vous êtes un politique que d'être quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et qui fait la politique au doigt.
Mais tu reconnais quand même qu'il y a une inégalité de moyens et donc une injustice entre les lobbies d'intérêts privés très puissants et très riches, parce que très riches, et de la défense d'intérêts généraux comme des communs, comme de l'environnement.
Alors c'est plus subtil que ça. C'est pas ça. L'influence n'est pas seulement une question de moyens. Alors effectivement, si tu as beaucoup de moyens, tu as beaucoup plus de puissance de feu, c'est vrai. Mais les ONG, et pas qu'elles, ont aussi trouvé des moyens de compenser ça. C'est-à-dire souvent, elles vont se mettre en coalition et suivant le moment dans lequel on va être, parfois, en fait, les ONG vont avoir plus de pouvoir. En fait. Quand tu es le sommet de l'influence...
Toi, tu as vu à Strasbourg des ONG parvenir à obtenir des revirements de décision.
Bien sûr. Les ONG ont une influence. Enfin, je veux dire, regardez les questions agricoles, les questions environnementales, les ONG ont gagné des combats. On a cette idée, c'est vrai que quand on est une ONG, on a probablement moins de moyens que si on a un Google, que si on a Amazon, etc., etc. Mais on a d'autres outils qu'on peut utiliser, qu'on peut avoir à sa disposition. Et c'est le lobbying, en fait, il faut voir ça comme étant une boîte à outils. C'est un outil qui est neutre et vous utilisez, vous allez piocher dans ces outils. Par exemple, une ONG, vous allez pouvoir plus facilement faire une grande campagne de communication sur les réseaux sociaux, mobiliser les gens, faire des pétitions, etc., que si tu es une entreprise. L'entreprise, ça ne va pas faire une pétition. Donc, même s'il y a une inégalité, c'est vrai, il faut le reconnaître. D'une part, la manière dont le lobbying est organisé au niveau européen essaye d'équilibrer les choses. Par exemple, la Commission européenne cofinance beaucoup de lobbies, beaucoup d'ONG, pour essayer de donner du temps, des moyens aux ONG et d'équilibrer un peu le rapport de force et permettre à la société civile d'être présente. Et aussi, c'est organisé. C'est-à-dire, les députés, on va les encourager, surtout quand il y a de la transparence, à rencontrer des ONG, à rencontrer aussi des industries, etc., etc. Donc, la manière dont c'est organisé essaie de compenser un peu cette inégalité des armes.
Safia ?
C'est justement la question que j'avais, parce qu'on parle d'essayer de compenser, de mettre en place peut-être des incitations des députés à parler, etc. La réalité, c'est qu'en fait, je pense que l'inégalité de moyens et les puissances et les influences sont extrêmement corrélées. Est-ce qu'au-delà des démarches de compensation, l'Union européenne est dotée d'un outil, d'un arsenal juridique par rapport au lobby pour un peu, je ne sais pas, légaliser ou encadrer ces rapports ou pas du tout ?
Alors, il y a un encadrement, mais pas une régulation du lobbying.
D'accord.
Je précise.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui est sur le lobbying au niveau européen, qui va par exemple donner des sanctions, des amendes, etc. Ça, il n'y en a pas. Okay. En revanche, il y a un encadrement. Par exemple, ça fait 15 ans maintenant, voire même plus, qu'il y a un registre de transparence où les lobbies doivent... C'est volontaire, mais de facto 95%.
C'est super tendre quand même. C'est-à-dire que là, c'est sur du volontariat.
C'est sur le long terme, mais en fait, c'est là où tu mets la carotte, en fait. C'est-à-dire que si tu t'enregistres, tu as accès au commissaire européen, tu as accès au plus haut gradé de la Commission européenne, tu as des accès facilités aux institutions, etc., etc. Donc, en gros, si tu veux rencontrer des gens qui sont vraiment influents, tu as intérêt à t'inscrire. Et dans les faits, la quasi-totalité des lobbies à Bruxelles sont enregistrés.
Donc, de l'incitation et pas de contrainte.
Pour le moment, non. Et c'est un sujet de débat qui est aujourd'hui. Il y a eu plein de débats dans le cadre du Qatargate, etc., du scandale du Qatargate, etc.
Du Qatar, oui. Il
y a des efforts pour faire ça. Cette semaine, ils ont voté notamment la mise en œuvre d'un nouvel organe d'éthique. Mais en fait, derrière, il y a des questions un peu pratico-pratiques. Je veux dire, moi, je vois maintenant la manière dont j'étais de côté de la dame, encore une fois. Admettons que tu dises tous les députés n'ont le droit d'encontrer que des lobbies qui sont enregistrés. Très bien, sur le principe. Moi, je suis pour la transparence. Ils vont dans leur circonscription, il y a une entreprise locale qui vient les voir pour dire moi je suis emmerdé par cette législation. Est-ce que le député doit accepter ou pas? Parce qu'après tout, on va dire c'est une entreprise qui va essayer de me faire du lobbying, mais en même temps, c'est quelqu'un de ma circonscription. Donc en fait, il y a des cas un peu pratiques où en fait, on rentre dans une zone grise qui devient extrêmement complexe en fait, et très subjective à réguler. Après,
il y a le bon et le mauvais lobbying, ça dépend qui.
Voilà, c'est ça. Il y a le bon lobbyiste, le bon lobbyiste il envoie des amendes, le mauvais lobbyiste il envoie des amendements, mais c'est un mauvais lobbyiste.
C'est un peu ça.
C'est un peu ça, mais in fine, le lobby il est là pour donner des informations et après c'est une décision politique. C'est une décision politique. Les députés ils rencontrent les gens et après ils prennent leur décision politique. Quel côté ils veulent défendre, quel sujet les convainc sur le plan technique et politique. Moi je dis toujours que une décision c'est la combinaison d'une décision technique, le fond de la législation, et une décision politique. Quel secteur on a envie de défendre, quel secteur on a envie d'aider.
On va continuer à parler de participation politique avec notre deuxième invité de la semaine. Je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour Béla Beltaïef. Salut Béla. Salut Béla, merci d'être avec nous sur le plateau de Blackseat. Béla Beltaïef, je le disais, tu es la cofondatrice de Your Future.
La fondatrice et effectivement cofondatrice de Her Future. Je me donnerai une joie de tout vous expliquer.
Mais tu vas tout nous expliquer. Alors ça se prononce Her Future, donc c'est E-U-R. Je ne sais pas s'il fallait dire
Your. C'est un jeu de mots en fait.
Mais c'est incroyable comme
voilà,
jeu de mots.
Your Future et Her Future en français avec la notion de l'heure et le futur tout simplement.
C'est incroyable. Tu vas nous raconter tout ça. Ah, ça a commencé en fait en 2021. Ici au Parlement européen, tu étais invité pour poser une question. Et on a la vidéo de cette question que tu as posée en 2021.
Message is pretty clear. We're here to prepare the next 2014 elections as the future generation. It is also obvious that most of us in this plenary are politically oriented. But my question is, how do you get young people from the priority neighborhoods, the urban areas where I'm from, to vote and be interested in the spirit of Europe? And give them back the taste of voting, especially in moments of national tensions and social disparity. Thank you.
Une question, somme toute, assez straightforward. Quelle a été la réponse que tu as obtenue?
Alors, c'était une réponse assez complète, certes, mais qui ne me plaisait pas du tout.
Ah ouais?
Alors, d'une part, c'était la personne qui avait répondu, elle était, je crois, du comité en Espagne, un truc comme ça. Donc, elle était forcément au courant de ce qui se passe au sein de la France. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était pendant les émeutes.
Ça, c'était au moment des émeutes.
Exactement.
2021,
Donc, c'était très symbolique. Ouais. En fait, cette question, je voulais vraiment la mettre au cœur du débat pour leur dire, OK, vous proposez aux jeunes de voter, vous leur dites d'aller voter, mais vous oubliez quand même une certaine minorité qui, aujourd'hui, représente une grande majorité. Et donc, du coup, je me suis permise de poser la question et j'étais pas satisfaite. Et le problème, c'est que ça a continué. J'ai continué à participer à beaucoup d'événements et à chaque fois, c'était les mêmes réponses. On me renvoyait soit à des associations de quartier, soit voir entre les citoyens qui sont dans les quartiers, etc. et chercher la réponse par moi-même. Et c'est ce que j'ai fait.
Donc le constat que tu fais, c'est un manque de considération des personnes qui vivent en banlieue.
Clairement.
Manque de prise au sérieux de leurs paroles, de leur,
tout à fait,
de leur
ouais.
vécu. Et donc, c'est pour ça que tu as créé ta propre organisation.
Exactement, c'est ça. Et en fait, Lo, justement, parce que je sais que voilà, tu es derrière une incroyable organisation. Alors, moi, en fait, j'ai décidé de mettre en avant et les milieux ruraux et les banlieues, parce ouais. que justement, ce sont les deux minorités, on va dire, qui sont oubliées. Mmh. En fait, on revient à chaque fois, tous les 5 ans, toquer à leur porte pour justement recueillir leur voix et recueillir leur vote. Mais personne ne va voir pendant les crises si tout va bien.
Et exactement.
Voilà. Et en fait, je suis allée recueillir justement ces témoignages de jeunes qui s'abstiennent. Alors, on va en venir, hein. Mais il y a les personnes qui s'abstiennent parce que voilà, c'est une manière de démontrer justement clairement qu'ils ne sont pas contents avec le système, et d'autres personnes qui s'abstiennent parce que justement elles ne sont pas au courant et ouais. elles partent du principe que c'est un concept élitiste et qu'en fait ils n'ont rien à faire justement dans ces instances politiques.
Lorraine, toi aussi, c'est le constat que tu fais ?
Exactement, en fait c'est un peu le j'y connais rien, je ne suis pas assez informée, je ne suis pas assez diplômée, je ne suis pas juriste ou je n'ai pas fait Sciences Po Paris, etc. Donc je n'ai pas mon mot à dire, donc je laisse. Ma voix et la possibilité de décider pour moi à d'autres personnes que je considère plus informées, etc., et plus compétentes et compétentes. Sauf que, en fait, ce qu'on leur dit, c'est que ces personnes-là, ne serait-ce que déjà en termes de classe sociale, n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne idée déjà de leur laisser ce pouvoir-là? Évidemment que non. Et en plus, après, il y a toute cette idée autour de la politique où, en fait... finalement, en banlieue, c'est un peu la politique berque. Genre,
ouais, ouais.
Moi, je suis devenue conseillère municipale en 2020. Genre, maintenant, dans tout mon entourage, on se fout de ma gueule. Genre, non, mais toi, t'es la politicienne. Ouais. T'es chelou.
T'es rentrée dans le cercle chelou,
exactement,
dans la bulle. Tu fais partie
ça.
De la bulle de la politique, ouais, je comprends.
Tu fais partie de la bulle, donc on doit... Enfin, voilà, il y a tous les clichés, t'es corrompu, de toute façon, tu vas trahir et compagnie et compagnie. Donc, il y a plein de choses comme ça. Après, il y a aussi toute l'histoire en tout cas, ce que moi, je connais des banlieues en France où, effectivement, il y a eu des émeutes, etc. Moi, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, émeute de 2005 et tout ça. Donc, il y a une grosse méfiance. et en même temps un manque de connaissances. Donc je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est, et finalement, en fait, quand on vient à leur rencontre, on te leur dit, bah, en fait, finalement, tout est politique. Tu prends, pour venir, nous, on a souvent des lycéens, pour venir au lycée, t'as pris le bus, le train, même le vélo, bah, c'est politique. Et là, en fait, ça, ça ouvre un dialogue. Ils disent, ah ouais, en fait, peut-être que vous êtes peut-être pas mal.
Ouais, voilà. Ouais, ouais. Je suis très content de vous réunir sur ce plateau, toutes les deux et toutes les trois, tous les grands. En fait, parce qu'on est tous dans le même combat. Moi, c'est celui que je mène depuis bientôt 10 ans. Et la question est toujours ouverte. Je n'ai pas la réponse. Et du coup, je te la pose. Comment on fait pour intéresser les jeunes des quartiers prioritaires à la politique?
Alors, c'est très simple, c'est compliqué. Alors, nous, on a décidé justement, avec ces personnes issues des QPV et des milieux ruraux, de travailler sur 3 secteurs très, très différents, mais qui ont un socle commun. Alors, moi, j'ai commencé comment? D'ailleurs, il faut savoir que je l'ai créé il y a 3 mois, l'association, donc c'est encore un petit bébé.
Donc, c'est encore tout.
Exactement.
Récent.
Mais on a déjà commencé, on s'est mobilisé avec de grandes actions. On a commencé par le volet culturel. Qu'est-ce qu'on a fait? On a approché les centres socioculturels. Parce que, faut pas oublier que les centres socioculturels sont des structures qui sont implantées dans les quartiers populaires depuis des années. Et nous, on ne peut pas se permettre de venir ici et dire « Ouais, je vais vous montrer comment on fait la politique ». Il faut aussi aller et demander des conseils de nos anciens et savoir clairement comment faire. Mais on peut aussi apporter cette vague de fraîcheur et leur montrer et leur dire « En fait, je pense qu'on peut faire les choses autrement parce que maintenant, les temps évoluent ». D'ailleurs, il y a même le très grand sociologue Henri Rey qui a travaillé pour Sciences Po depuis 1983 et qui a établi le fait que justement, les quartiers populaires évoluent. Il n'y a pas les mêmes citoyens. Au début, on avait une diaspora israélite. Ensuite, ça s'est transformé pour accueillir de plus en plus de Maghrébins. Et par la suite, voilà, à chaque fois. Donc, et en fonction des citoyens qui viennent occuper justement ces lieux-là, au milieu de la précarité, voilà, y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils vont voter pour un parti ou pour un autre. Aujourd'hui, voilà, ça commence à changer. Et moi, c'est ce qui me perturbe. D'une part, il y a les abstentionnistes. D'une autre part, on se tourne vers l'extrême droite. Et pour répondre enfin à ta question, du coup... Donc, on passe par 3 volets. Le volet socioculturel, donc la culture. Ouais. Le socioculturel, c'est-à-dire on passe par les communautés religieuses. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on est dans un pays laïque, certes, mais il faut aussi passer par les communautés religieuses pour justement mobiliser les représentants religieux, c'est ça. Donc, nous, on a fait un repas pendant Ramadan, une rupture du jeûne, un repas œcuménique avec des chrétiens, des juifs, des musulmans. On a invité l'UEJF avec l'EMF. Au début, on appréhendait, mais en fait, ça s'est passé super bien.
Ouais.
Et autour des élections européennes, pour les mobiliser. Et enfin, on a le volet académique. Donc, on a signé un partenariat avec l'Académie de Strasbourg. Et donc, du coup, on passe, on fait la tournée des établissements et on sensibilise des promos dans les quartiers. Voilà.
Ok, d'accord. Malek ?
Tu as vu ce chiffre-là qui tourne de 76% des 18-34 ans qui n'ont pas l'intention de voter aux élections européennes ? Je pense qu'au delà même de notre génération, parce qu'on cible là quartier populaire, notre génération, les Français, en fait, s'en tapent. Parlons français. À quoi bon faire tout ça, Bella ?
À quoi bon faire tout ça ? Alors moi, je ne suis pas de nature défaitiste, je te dis la vérité. Donc, en fait, je suis déjà très passionnée par le sujet. J'ai une passion quand je parle avec les personnes, justement, par rapport à la politique. Et je t'avoue que je ne prétends pas à tout changer, on ne peut pas tout changer. Mais on peut semer cette graine et la laisser germer par la suite. Moi, par mes constats, tu vois, en faisant le tour des quartiers, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'autocensure. Et en fait, ça, c'est assez malheureux parce que tu vas les voir et tout, et tu leur poses des questions, et tu vois qu'ils s'y intéressent. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que les quartiers populaires et même les milieux ruraux ne sont pas des déserts politiques. La politique a toujours existé dans ces milieux-là. Et alors, prétendre à ramener la politique et des injonctions, c'est juste être narcissique. Hein. Je suis désolée, c'est avoir un grand ego. Et il suffit juste d'aller justement dans ces milieux, comprendre comment ça se passe, recueillir les témoignages et justement porter la voix. Et c'est pour ça que j'ai créé Heure Future. C'est justement pour porter ces voix qui sont invisibles et les ramener aux instances politiques. Et d'ailleurs, je pense que c'est avec des interventions comme ça qu'on remarque justement ce qui se passe. Et il ne faut pas attendre les moments de crise quoi, pour agir.
C'est une question que je vais vous poser à tous les 5 parce que c'est ce qui nous anime dans cette émission à l'occasion de ce partenariat ici au Parlement européen à Strasbourg à quelques semaines d'une élection majeure. Comment on intéresse aux enjeux européens ? Moi, j'ai l'impression que c'est un challenge énorme. J'ai l'impression que poser même la notion de dire on va parler des enjeux européens, c'est déjà perdre au moins la moitié de l'audimat qui, en fait, le mot Europe fait encore fuir les gens en disant « Putain, ça va être casse-couille. On va rien becter, encore une fois. Et ça paraît lointain et ça paraît... » Enfin, voilà.
Moi, j'ai tendance à dire « Tous les moyens sont bons. » Tous les moyens sont bons. Moi, par exemple, j'utilise de l'humour. Je fais des mèmes. Je peux faire une conférence d'une heure sur un trilogue ou alors je peux faire un mème qui explique en une idée, qui fait passer une analyse politique. Les gens vont rigoler, ils verront peut-être qu'il y a un truc à creuser. Je fais, là en ce moment, tous les jours jusqu'aux élections européennes, je publie chaque jour une anecdote sur l'Europe. Une citation, un truc intéressant, etc. Je fais des streams. J'ai fait un partenariat avec France Télévisions où ils m'ont laissé diffuser sur ma chaîne Parlement, la série qui se passe au Parlement européen. Wow, ouais. J'ai diffusé sur ma chaîne et je faisais le commentaire.
T'as eu les droits de diffusion ?
Ils m'ont donné.
Oh, cool. Wow. En même temps, ils sont adorables.
Tu n'as pas payé ?
J'aurais demandé autorisation, j'ai dit bah ok, allez-y.
Ça n'arrive jamais dans le paysage audiovisuel.
Je sais pas, j'ai demandé.
Il nous donnera ses tips après.
Il m'autorisait, je fais ok, très bien, je vais pas me plaindre.
J'ai fait un stream avec eux, j'avais interviewé Xavier Lacaille, ouais. L'acteur principal de la série Parlement, je me souviens. Mais donc c'est très cool si t'as pu faire un.
Et du coup, voilà, j'explique qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans la série, etc. Et voilà, j'utilise tous les outils que je peux avoir à ma disposition pour essayer de susciter un intérêt. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'essaie d'hameçonner quelqu'un. Et me dire, bah voilà, peut-être qu'il va retenir un petit truc d'Europe et après, derrière, il va s'intéresser et je vais le choper derrière et l'intéresser à plus en plus de sujets et lui faire comprendre que y a des choses qui se passent en fait en Europe et des choses qui le concernent et qui vont l'intéresser. Et ça peut commencer par de l'humour, ça peut commencer par amener une personnalité politique qui l'intéresse pour parler d'un sujet qui l'intéresse. Voilà, tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire.
Malek, comment on fait ?
Je pense que les députés qui seront élus après le 9 juin auront une responsabilité. Quand on demande aujourd'hui, je me suis permis de demander à mes potes, pour vous, l'Europe, c'est quoi ? Ils m'ont tous parlé du Covid.
Ouais,
parce que pour le coup, ils ont su à quoi avait servi l'Europe à ce moment-là. Bon, après, certains me parlent aussi de la guerre et de l'Ukraine. Mm-hmm. D'accord ? Je pense qu'il va falloir un vrai travail de nos prochains élus pour avoir un impact concret, en tout cas, même dans l'explication, un impact concret dans la vie des gens, parce que ça paraît toujours très lointain. La disposition, la réglementation avec un numéro infini, les gens s'en tapent, encore une fois. Mm-hmm. Donc, peut-être parler de manière très, très simple et de manière très concrète aux Français, quoi.
Ok, d'accord. Lorraine ?
En fait, nous, avec Cité des Chances, on a une méthode où on se dit on part des gens. Et, parce qu'en fait, on a tous et toutes des causes qui nous tiennent à plus ou moins à cœur. Il y en a, ça va être les animaux. Il y en a, ça va être l'écologie. Il y en a, j'en sais rien, ça va être la mode ou peu importe. Et en fait, du coup, on essaye de savoir qui on a en face de nous, c'est quoi leurs enjeux locaux. Par exemple, nous, notre association, elle est née à Fos. On a un aéroport à 10 minutes de chez nous.
Val-d'Oise.
9-5 représente. on a un aéroport à 10 minutes de chez nous. Bah ouais, on a des nuisances sonores, etc. Et là, on essaye de partir en fait de ça et de leur dire, ok, bah en fait ça c'est une décision politique. Dans cette décision là, l'Union européenne peut intervenir, l'État, la région, etc., etc. Et en fait, les gens ils se rendent compte, ah ouais, bah finalement ces institutions là prennent des décisions pour moi. Auxquels je ne m'intéresse pas. Donc là, je parle en tant que jeune de quartier populaire généralement. Et donc, c'est problématique. Et moi, souvent, ce que je dis aussi, c'est que finalement, en fait, on paye des impôts, tous et toutes, que ce soit TVA ou etc. Et en fait, ça sert à financer un certain nombre de choses. Et finalement, si on ne vote pas, si on ne s'intéresse pas, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec notre argent. Et tant pis pour nous, en fait. Et je pense que personne n'a envie qu'on vienne prendre dans son compte et qu'on dise « Non, mais t'inquiète, je fais les courses pour toi, tu mangeras plus tard.
» Safia ?
Moi, je vois plusieurs choses. Je pense qu'en réalité, dans la période qu'on est en train de traverser, y compris les abstentionnistes dont tu parlais, qui n'ont pas forcément de regard ou de visibilité sur les institutions, sur les gens ou ce qui se passe, vont être amenés, je pense, à s'intéresser à l'Europe dans la période. Il y a quand même le contexte de guerre qui inquiète énormément de monde, notamment la guerre en Ukraine. Il y a le contexte de l'inflation, notamment durant cette guerre, qui va traverser les pays européens. Les gens se questionnent par rapport à la concurrence au travail, par rapport à l'inflation, par rapport à comment nourrir la fin du mois. Les gens savent que c'est un enjeu européen et mondial. Il y a aussi la question de l'immigration. Et avec beaucoup de jeunes de notre génération et issus des quartiers populaires comme nous, on a été frappés par les drames en Méditerranée, dans la Manche, avec les scandales de Frontex. Donc je pense qu'en réalité, il y a une politisation qui peut se faire autour de l'Union européenne. Mais moi, je voulais revenir sur quelque chose, c'est qu'on ne peut pas nier qu'on va dire ce que nous, on va appeler le désintérêt pour l'Union européenne, pour les élections. Ça a à voir, si on parle comme des sociologues, par rapport à un désintérêt, par rapport à l'institution, par rapport à un manque de confiance, par rapport aux partis politiques institutionnels. Et même, moi, je suis issue d'une association, c'était SOS Racisme, en lien avec les partis politiques institutionnels, eux aussi étaient dans une dynamique de vouloir faire voter les banlieues, vouloir faire voter les quartiers populaires. Sauf qu'en fait, ils étaient dans un entre-deux en disant « Ouais, nous, on fait voter, mais vous inquiétez pas, on n'est pas comme dans les partis, parce que tout au long de l'année, on va être là, on va essayer de porter vos revendications. » Sauf qu'en fait, être un acteur associatif et antiraciste, c'est être confronté à l'institution et être confronté au parti. C'est toujours être dans un compromis où, en même temps, on essaye de faire du lobbying antiraciste, mais en même temps, on doit abandonner plein de revendications. Mmh. Et au final, le parti, l'institution sont toujours plus puissants, en fait, pour imposer leur agenda. Et moi, justement, je voulais savoir et te poser une question plus spécifiquement. Est-ce que, du coup, t'as conscience que, du coup, t'es pas la première à essayer ? Est-ce que tu tentes des nouveautés ? Et est-ce qu'au final, ce monde-là, tu le connais bien ? Parce qu'en réalité, pas tout le monde n'est invité pour poser une question à l'Union européenne.
Alors, je te remercie pour cette question qui est très pertinente. Du coup, je ne suis ni la première ni la dernière, je pense, déjà à m'introduire dans le monde associatif. C'est un monde qui est très, très profond et très complexe. Je ne suis pas là non plus pour forcer les gens à voter, parce que de toute manière, comme dit tout à l'heure, j'ai dit que je suis là pour semer la graine à l'intérieur du cerveau des personnes, dans l'esprit des personnes, pour qu'un jour ça puisse germer. Et pour la plupart, je n'ai même pas besoin de le faire, parce que ce sont des personnes qui sont déjà politisées. C'est juste des personnes qui ne décident pas de faire confiance au système. Exactement. Parce que voilà, il y a des faits et il y a des constats qui sont effectués. Et donc, du coup, ils se sentent isolés, se sentent laissés de côté. Donc moi, je sensibilise pour leur dire, voilà comment le système fonctionne. Si toi, tu pars du principe que tu veux changer les choses, tu es quand même obligé d'avoir des notions communes et savoir comment fonctionne le Parlement, comment fonctionne l'Assemblée. Tu ne peux pas juste prétendre à vouloir combattre un système alors que tu ne sais pas comment il fonctionne. De plus, pour ajouter ça, je trouve ça très très bien que tu puisses parler de SOS Racisme, justement, parce que Heure Future combat également la discrimination. En fait, le combat de la discrimination et le combat à l'abstention sont intrinsèquement liés. Les gens me posent des questions, me disent « Mais c'est quoi le rapport ? Tu veux combattre la discrimination ? Tu veux faire ça aussi ?» En fait, c'est lié parce que beaucoup de personnes s'auto-censurent parce qu'ils ne se pensent pas légitimes, parce que justement, ils sont noyés dans ces stéréotypes. Quand ils s'y intéressent directement, c'est des commentaires racistes qu'on voit en premier. Totalement. Et donc, du coup, ils sont absorbés et ils sont complètement isolés. Ils s'auto-censurent d'autant plus. Donc, le fait est que je ne pourrais pas changer les choses de la manière dont on voudrait, mais je le fais à ma façon. Et je sais que j'y parviendrai dans le sens où il y aura un changement, parce qu'on a tous quelque chose à apporter et on a tous un impact. Maintenant, si on part du constat selon lequel je vais tout changer, ce n'est pas possible. On a besoin de l'aide des autres. On ne peut pas faire un travail tout seul. Et c'est pour ça que moi, je compte sur les actions qu'on mobilise actuellement pour, en tout cas, faire un constat et que les gens se disent « Ok, peut-être que je ne vais pas voter pour le 9 juin, mais je sais qu'au fond de moi-même, c'est quelque chose de très important et je porterai cette responsabilité et ce fardeau sur le dos. »
Je voulais juste rajouter sur comment faire voter les jeunes aussi, également, vu que vous parliez de discrimination notamment. Il y a une notion aussi très importante et avec laquelle on a énormément de mal en France, c'est la notion de représentation. Parce que direct, on dit « Ah non, mais c'est du communautarisme, oh mon Dieu, vous voyez les couleurs, c'est très grave, etc. » Mais moi, rien que le fait d'être une jeune femme noire... qui a grandi à Clichy-sous-Bois, qui fait de la politique à 26 ans, etc., en fait, je vois des gens qui viennent vers moi, ils se disent « Ok, bon, je me méfie un peu, mais comme tu me ressembles, peut-être on peut discuter et voir qu'est-ce qui peut en émaner de ces discussions-là. » Et ça donne envie à des gens de s'engager, ça donne envie à des gens de potentiellement faire confiance. Après, il y a aussi des gens qui sont des cautions et qui ont dégoûté, hein, ça c'est sûr. Et parfois, le système est plus fort que nous. Moi, dans ma petite expérience, je peux vous dire que j'en ai bavé, mais j'essaye de tenir justement en me disant, la petite Lorraine qui commençait à 16 ans, il y a 10 ans, elle aurait été contente de voir, de me voir aujourd'hui et de s'inspirer et se dire pourquoi pas un jour. Je ferai de la politique aussi, quoi.
Si je peux juste rajouter
une petite parenthèse. Vas-y, rajoute,
je t'en prie. Je vais juste rebondir par rapport à ça. Justement, tu vois, je vais te donner un autre exemple. On était à l'association parlementaire et en fait, il y avait des personnes qui venaient qui disaient « Nous, on a fait ça dans les QPV, machin. » Alors, je te dis, ça fait 26 ans de ma vie, j'habite toujours dans le même quartier populaire, de quartier très précaire.
Les
QPV, ce
sont les quartiers politiques de la ville, les quartiers prioritaires. Effectivement.
Voilà, c'est ça, le ghetto. Bon, bref. Mais tu vois, par exemple, ils parlaient pour nous en disant « Nous, on a fait ça, nous, on a fait ça, nous, on a fait ça. » Et moi, je me suis levée, j'ai dit « Bonjour, voilà, notre association, elle fait ça. Vous parlez, vous dites que vous venez le dialogue n'est pas possible parce que, voilà, il y a des crises, il y a des machins. Mais d'accord, mais il faut passer par les gens, justement, des QPV, les jeunes, pour essayer de comprendre comment ça se passe et avoir ce même dialogue avec eux pour que vous puissiez avoir, justement, des solutions. Le fait d'être présent, justement, dans des endroits où on est invisible, c'est super important. » C'est très, très important parce que ça permet justement de porter encore plus la voix de ces milieux-là. et justement de donner plus de légitimité, tu vois, parce qu'il y a beaucoup justement qui prétendent, surtout sur Strasbourg, des grandes associations qui prétendent justement faire le tour, faire des choses, etc., mais il n'y a rien qui est fait concrètement. Pour moi, personne faire quelque connaît. Chose, c'est être sur le terrain. Par exemple, nous, on a passé le dimanche avec des potes à moi, autour du quartier, tout ça. Il pleuvait, il faisait froid, mais on partait questionner les gens. Voilà, tu ne vas pas passer à la caméra, c'est pas grave, je te pose juste des questions, je veux connaître ton avis. Mais est-ce qu'eux se cassent la tête pour faire ça? Voilà.
Moi, c'est là où je te rejoins, c'est qu'il y a un enjeu que je pense prioritaire quand on parle de politique aux jeunes, c'est plutôt que de leur parler, et plutôt que d'être dans une posture d'injonction, notamment l'injonction à voter, juste fermer sa gueule et les écouter. Cette espèce de truc que personne ne fait, très peu, de simplement laisser la parole venir d'en bas, laisser les jeunes se saisir eux-mêmes des enjeux, leur laisser faire des propositions, les laisser expérimenter eux-mêmes, créer des assos, c'est ce que tu as fait, c'est un exemple. Je pense que c'est beaucoup plus puissant politiquement que d'avoir un vieux en costard-cravate qui vient l'avoir en disant « dis donc, les jeunes, c'est important de voter ».
Oui, c'est ça.
C'est clair.
Mais si... Pardon.
Ouais.
Si tu te souviens bien, c'est ce qu'avait vendu Emmanuel Macron avec la Grande Marche.
La Grande Marche en 2016.
Avec, voilà, vous avez des militants qui vous ressemblent, qui vont vous écouter. On est là pour prendre le pouls du pays et on le fera d'ailleurs tout au long des mandats. Bon, au final.
Non, mais tu vois, des exercices comme les conventions citoyennes, par exemple, c'est des exercices très intéressants qui ont le mérite d'exister, qui en plus produisent plutôt du bon travail.
À condition d'en faire quelque chose après.
Qui ensuite est méprisé par le politique. Mais c'est le rôle du politique. C'est pas de la faute des citoyens de la convention citoyenne si ça n'a pas été bon. Chers amis, je vous propose qu'on avance dans l'émission. Je vous propose qu'on joue à un jeu débile. C'est parti pour le quiz à la con. T'inquiète pas.
C'est ma hantise, ce jeu.
Safia a très peur de ce jeu.
Si elle a peur, alors moi je dis quoi?
Alors, vous inquiétez pas, c'est un quiz. Ce n'est pas un jeu où il faut deviner quelqu'un, etc. C'est un quiz. Alors malheureusement, on ne peut pas les afficher à l'écran, je suis désolé. Je vais vous poser des questions, je vais vous donner 4 propositions de réponse. Vous allez réfléchir et vous allez essayer de trouver la bonne réponse. Je vous demande, si vous connaissez la réponse à une des questions, de ne pas la crier.
Évidemment.
Vous laissez vos camarades galérer. C'est ça le plaisir, le sel de ce jeu. Première question de ce jeu à la con, de ce quiz à la con. Donc en 2023, des eurodéputés ont rempli un train, un TGV, pour se rendre à Strasbourg. Mais il y a eu un problème d'aiguillage. C'est une histoire vraie. Hein. Oui. La question, c'est à quel endroit est-ce qu'ils ont atterri, ces eurodéputés? Non, okay, c'est pas la bonne question là qui s'affiche à l'écran. Non, c'est pas la bonne. Moi, c'est la première là. À quel endroit est-ce que ces eurodéputés ont échoué?
Mais je crois que je connais la réponse.
Alors,
je dis rien.
Je connais la réponse et du coup, je verrai à la fin.
Aussi,
est-ce que c'est réponse A, ils seront retrouvés à Disneyland Paris en pleine parade d'Halloween? Est-ce que c'est réponse B, ils sont retrouvés à Munich en plein Oktoberfest? Réponse C, à Londres en plein Brexit? Réponse D, à Strasbourg, qui est une ville en Allemagne? Cette anecdote est vraie, hein. C'est une vraie question. À quel endroit est-ce que ces eurodéputés ont été emmenés, un TGV rempli d'eurodéputés?
Là, si je prends
Et de staff.
Okay.
Et de staff aussi, ouais.
Si je prends ma petite casquette aiguilleur SNCF, tout ça, pour aller jusqu'à Londres, il faut...
Ouais, non mais l'aiguilleur qui se trompe là, du coup.
Par contre, en vrai, au lieu d'aller à Gare de l'Est, se perdre à Disneyland, Marne-la-Vallée...
Tu pars du principe qu'ils sont partis de Paris.
Oui. Ah oui, c'est vrai.
Mais en vrai, ils
sont partis de Paris.
Ils sont partis de Bruxelles. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un train tous les sessions de Strasbourg. Il y a un train spécial qui a frété pour amener les gens de Bruxelles jusqu'à Strasbourg. Et ce train fait d'abord Bruxelles-Paris et après Paris-Bruxelles.
Ah, c'est ce train-là, d'accord.
Et Paris-Strasbourg, pardon.
Mais du coup, là, en plus, t'as même pas donné la réponse.
Ah ouais,
parce que du coup, il y a quand même eu un problème d'aiguillage à un moment. Où est-ce qu'ils sont retrouvés?
Eh ben, c'est sûr qu'au lieu d'arriver à Gare de l'Est, ils sont arrivés à Disneyland.
Donc toi, tu dis réponse A,
dinguerie.
Des eurodéputés à Disneyland, donc
ça me régale en fait.
Lorraine, qu'est-ce que tu penses?
Moi, je dis B.
Toi, tu dis Munich.
Ouais, au moins. Oktoberfest. Ouais, c'est vers là-bas.
Qu'est-ce que c'est, Oktoberfest?
Même pas.
Je te dis la vérité. C'est la seule blague.
Mais quand il y a des eurodéputés là-bas, c'est une dinguerie.
Ah ouais.
Safia, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Moi, je connais la réponse.
Tu connais la réponse, d'accord. Tu connais la réponse aussi, Bella?
Possiblement, je vais partir sur la réponse A.
La réponse A, Disneyland.
Je connais la réponse, alors Safia, tu veux y aller en première?
La A.
La A.
Et c'est effectivement la bonne réponse. Bravo à Malek, notamment, qui lui ne connaissait pas. effectivement, le train, il s'est trompé de chemin. Il est allé à Marne-la-Vallée, donc qui est le terminus pour Disneyland Paris.
Mais du coup, ils sont allés à Disney ou pas
Non.
Et c'est là que l'anecdote est très triste, c'est qu'ils sont pas descendus du train, ils sont repartis vers
Strasbourg.
C'est pas le pire qui aurait pu leur arriver. Moi, ça m'est arrivé donc de m'arrêter pendant 5 heures au milieu de voie, sans clim, en juillet, pour aller à Strasbourg, on a adoré.
C'est vrai cette légende comme quoi entre Bruxelles et Strasbourg, il y a des mallettes.
Il y a des malles en fait.
Il y a des malles.
C'est des cantines, comme des cantines militaires. Et quand tu. Le vendredi, en fait, tu remplis ta malle, c'est les documents que tu vas mettre qui vont être transportés à Strasbourg. Et comme ça, t'as tes affaires, t'as tes dossiers. Et pareil, quand tu pars de Strasbourg, le jeudi, tu remplis ta malle. Et le vendredi, ça va.
Rappelle-moi, il y a combien de centaines de députés européens qui font
705.
705 malles à transporter entre Bruxelles et Strasbourg.
Et oui, effectivement, ça fait.
C'est beau l'Europe.
Ça fait pas mal
non, mais en même temps, c'est sûrement très utile. En 1991, il y a un pays qui a demandé officiellement à rejoindre l'Union européenne avant de se rétracter l'année suivante.
Il y en a deux même.
La question c'est... Oh, t'es chiant.
Sortez le
verre. Ça va, Quentin, merde. Bah, suivez-le sur Twitch, voilà. C'est quand même assistant.
Désolé, je...
Quel crack.
Quel pays a voulu rejoindre l'UE en 1991 ? Réponse A, le Maroc. Réponse B, Israël. Réponse C, le Groenland. Ou réponse D, la Suisse.
C'est un move, en vrai.
Je pense que c'est un piège, non, là.
Attends, 1991.
C'est un quiz à la con, hein. Il y a un moment...
C'est un petit délire de dire je veux y aller, puis finalement non.
Il y a trois réponses auxquelles il y aura une histoire à raconter.
Ah bah wow. Tu me le raconteras.
Un peu comme à la guerre, genre j'y vais pas, je suis neutre, tout
ouais,
ça.
Un peu moins en boîte de nuit aussi, j'y vais pas.
Parfois on est recalé, on n'est pas recalé aussi.
Il y a eu des pays recalés à l'entrée à l'Union Européenne, c'est déjà arrivé. Mais allez-y les amis, si vous avez des idées de réponses, dans le chat vous pouvez jouer. Hein. Mm-hmm. Ça compte pour rien, mais vous pouvez jouer.
Moi, j'irais le Maroc. Je sais pas pourquoi.
Le Maroc.
Ouais.
Réponse A, le Maroc.
Okay. Ils se sont dit, on est juste de l'autre côté, tu vois, c'est pas grave.
Ah, mais ouais, peut-être. Hein. Jamais vendu.
Parce que la Suisse, ouais, je sais pas, je verrais pas.
Non, mais genre, non, ça paraît bizarre.
Vu leur histoire chelou, Israël, c'est un peu loin quand même.
On a Chypre.
Oui, mais Israël, on devient. L'Union Européenne est le premier partenaire commercial d'Israël.
Ouais, en plus, il y aura une cohérence économique, je suis d'accord.
Le Groenland.
Non, mais moi, je pense que
vous me dites le Groenland, c'est le plateau.
Mais non, mais la Suisse, les guys, non ?
Et non, je pense que.
Bah, non, mais soyons évidents, là.
Allez, maintenant, faut me donner les réponses. Malek.
Groenland, c'est. Allez.
Réponse C, le Groenland.
Moi, je dis A, le Maroc.
Réponse Lorraine, réponse A, le Maroc.
Bah, D.
Réponse D, la Suisse pour Safia.
Israël.
Israël, la réponse B pour Bella.
Et la réponse D.
Et Quentin, la réponse D, c'est la bonne réponse. Bravo, mais c'est bien la Suisse. Bravo, Safia.
Et du coup, pour compléter...
Alors, vas-y, complète, s'il te plaît,
alors,
Quentin.
Alors, je raconte les histoires. Donc, déjà, c'était deux pays. C'était la Suisse et la Norvège. La Norvège aussi a été censée rentrer dans l'UE, candidater. Et ensuite, il y a eu un référendum, deux fois même. Et du coup, ils ont retiré leur candidature parce que le résultat était négatif. Les histoires. Le Maroc a effectivement demandé à rentrer dans l'Union Européenne en 1987. Ça a beaucoup emmerdé les États membres qui ne s'attendaient pas à ça. Et du coup, ils ont dit, en fait, non, parce que ce n'est pas un État européen. Et ils ont changé les traités pour mettre une condition. Il faut être un État européen. et le Groenland a été membre de l'Union Européenne puisque c'est un territoire danois. Et en fait, il y a eu un référendum là-bas parce qu'ils ont en gros, il y a eu l'autonomie du Groenland et le Groenland a quitté l'Union européenne. Donc aujourd'hui, le Groenland ne fait plus partie de l'Union européenne formellement.
Ok.
Putain, c'est cool l'Europe.
Elle voulait des anecdotes, j'en ai les centaines. Ne testez pas.
Ça donne envie de voter le 9 juin, dis donc. Non, mais, et moi, je trouve ça très rigolo quand même que la Suisse demande à adhérer et l'année suivante vote contre.
Mais c'est
parce
tout à l'image
fait,
de la Suisse.
Ils ont eu un référendum en fait.
C'est tellement la Suisse. Donc voilà, c'est le système suisse, référendum suisse, let's go.
C'est tout à son image.
Troisième question, j'ai une image à vous montrer. Vous allez me dire qui est cette personne.
Waouh.
Regardez bien cette image.
Mais Usul, qu'est-ce que tu fais
Est-ce que c'est réponse A, Jean-Claude Juncker ? Réponse B, un militant anglais pro-Brexit ? Réponse C, Usul ?
C'est vraiment la réponse C.
Mais Usul a son prime. Hein. ou réponse D, Captain Europe ?
Je vois que j'ai le même humour que les auteurs.
C'est un coup de la con, ça ne changera jamais.
Ah putain.
Voilà. Juncker a son prime aussi. Hein, si,
Juncker, voilà, Juncker a son prime.
La réponse, je crois. Pour moi, c'est la D, je pense.
Les gars derrière n'ont pas l'air affolés, hein, on est d'accord.
C'est une journée normale, hein, un petit lundi midi.
Moi, je me demande si...
assis à la place du président Juncker, et derrière, c'est chill total, tout va bien.
Mais non,
bienvenue
mais
au Parlement.
J'essaye de réfléchir, même si c'est un quiz à la con. Et en fait, je me demande si ce personnage, si c'est pas Captain Europe et qu'il aurait pas émergé pendant l'actu du Brexit. Et peut-être que je dis grave de la merde et que je suis foncièrement conne. C'est pas grave. Mais c'est bien de faire semblant.
La théorie est intéressante. Non, il a pas les yeux de Juncker, il a les yeux de Schulz. C'est horrible.
Tu connais toi les yeux de Juncker et les yeux de Schulz, mais moi je suis pas capable de les reconnaître comme ça les yeux. Là.
Ah, non mais les yeux de Schulz si quand même.
Les yeux de Schulz et l'arrondi un peu de visage.
Ah oui, non mais d'accord.
Un peu mes visages. Ok.
Président Juncker, pour ceux qui ne savent pas, ancien président de la Commission européenne. Vos réponses, chers amis, qui c'est? Réponse A, Jean-Claude Juncker. Réponse B, un militant anglais pro-Brexit. Réponse C, Usul. Réponse D, Captain Europe.
Le militant anglais.
Le militant anglais pro-Brexit, réponse B pour Malek.
Moi, je vote Usul. Non, je rigole. La D, du coup.
Captain Europe.
Je suis très tentée par Usul, mais la D.
Captain Europe également.
Franchement, je pense qu'on devrait lui acheter.
Même réponse que Malek.
Même réponse que Malek, un militant anglais pro-Brexit, pardon. Ouais. Ok, Quentin, tu connais la réponse?
Captain Europe.
C'était effectivement la réponse D, bravo.
Donc, c'est un activiste.
Encore une fois, Safia. Encore une fois, Safia.
Quand est-ce qu'il a été, il a émergé ce personnage?
Alors, je t'explique, c'était un personnage qu'un fonctionnaire européen avait créé en 2006, mais qui avait ressurgi en 2019 au moment des dernières élections européennes. D'accord. Et il défilait au Parlement et dans les rues de Strasbourg pour lutter contre l'abstention aux élections.
Bon.
En fait, c'était. Tu vois, ni la première ni la dernière.
Ouais, bah,
on l'a eu au téléphone pour préparer cette émission. Il cherche un successeur.
C'est un combat chaque fois, il cherche des successeurs.
C'est son actu. Voilà, comme quoi il y en a qui tentent des trucs pour intéresser les gens à l'Europe. Voilà,
non, mais le pire, c'est qu'à la base, en fait, le gars qui a créé ça en 2006, il s'était pointé déguisé comme ça, genre un événement, mais en mode complètement random, et pour se déguiser, pour se marrer. Et les gens adoraient. Il fait, bon, en fait, je vais peut-être continuer à le faire. Et des années plus tard, des potes à lui ne le reconnaissent toujours pas.
D'accord.
Oh, wow.
Quatrième et dernière question de ce quiz à la con. Quelle a été la mascotte du parti pirate pendant les élections européennes de 2019? Est-ce que c'était, réponse A, la patate pirate? Réponse B, le requin pirate? Réponse C, la tomate pirate? Ou réponse D, la vigie pirate?
Alors je m'en veux, tu sais, parce qu'il m'avait invité.
Merci d'encourager les auteurs du quiz à la con, qui en ont besoin.
Il m'avait invité à un event pour les Européennes de 2019, et du coup, j'en ai aucun souvenir, désolé.
Mais parce que tu n'étais pas allé.
Non, je
n'étais pas allé. C'est pour ça que tu ne te souviens pas.
Moi, j'avoue, je ne connais pas la réponse. Donc,
je
suis pareil que vous, là.
Attention, la
vigie pirate serait drôle quand même.
Alors moi, je fonctionne beaucoup avec la mémoire visuelle et je sais pas pourquoi, moi, j'ai l'impression d'avoir vu un requin.
Un requin, pareil, ouais.
Peut-être requin, que je me gourre totalement. C'est une hallucination.
Je me demande si ça peut être aussi une influence de la série Parlement, parce qu'il y a tout un truc sur le requin dans Parlement. Je sais pas si le requin pirate, ça me dessine quelque chose.
Ou alors, il y a Bob l'éponge, les pirates et les requins.
Les pirates et les requins.
C'est le parti pirate français.
C'est de la culture.
Oui, là, on est sur l'association d'idées.
Oui, c'est le parti pirate français.
Non, mais genre, le requin, c'est dans la mer, donc les pirates...
Quoi?
Non.
Bob l'éponge, en tout cas, on a de belles refs européennes. Hein,
c'est important, l'Europe.
De la grosse ref.
Tac. Bon. Allez, la patate pirate, le requin pirate, la tomate pirate ou la vigie pirate. Quelles sont vos réponses, chers amis, Malek?
Réponse B, le requin pirate.
Le requin pirate pour Malek. Lorraine.
Ouais, B aussi. Parce que
le requin pirate également. Okay.
Ça va être la B pour ma part.
Réponse B, le requin pirate également pour Safia. Donc on a un trio de requins pirates.
Réponse A pour moi.
La patate pirate pour
Bella. Si c'est ça, ce serait super drôle.
Moi, je vais sur la tomate.
Et la tomate pirate, réponse C pour Quentin. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Bella qui a la bonne réponse.
C'est quoi, la patate?
J'hésitais en plus.
Bravo Bella.
Attendez, on a une image.
Mais non. J'hésitais en plus.
Vous avez l'image, le parti pirate en 2019. Ils n'étaient pas à leur prime en termes de mix et de graphisme.
Même nous, pour les élections à Nanterre, on a fait mieux pour les élections étudiantes. Non mais les gars.
Je veux juste discuter avec leur service comme là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Faut s'asseoir, faut parler. Ça va, tu veux qu'on parle?
Non mais c'est juste un peu trop avant-gardiste pour nous.
Le parti pirate est un parti qui date de 2006. Il a présenté une liste aux européennes avec comme tête de liste une avocate et élue de la ville de Strasbourg.
Tu sais que
Caroline Zorn.
Jean, j'ai j'ai vu quelque chose sur toi en parlant du Parti Pirate.
Sur moi ?
C'était, oui, tout à fait.
Alors, on a reçu le Parti Pirate sur Backseat ?
Non, c'était une auditrice de Backseat qui avait laissé un message dans les commentaires en te remerciant, en disant « Merci Jean, grâce à toi, je me suis politisée ». Et en fait, elle a fini à ces élections-là à se présenter sur la liste du Parti Pirate.
Oui, je l'ai vu ce commentaire sur YouTube. Oui, c'est un commentaire sur YouTube. Ça fait plaisir, les viewers de Backseat qui deviennent politiques, ça fait toujours très plaisir. Donc là, oui, j'ai vu ce commentaire d'une candidate du Parti Pirate qui s'est intéressée à la politique grâce à Backseat. Et ça, c'est cool. Chers amis, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour remercier Quentin et Bella qui sont venus sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Backseat pour présenter vos initiatives et pour parler d'Europe ici, toujours au Parlement européen. Je vous rappelle que la semaine prochaine, jeudi 2 mai, une émission exceptionnelle Backseat à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Il y a 1200 places. N'hésitez pas à prendre vos places. Le lien est dans le chat et en description de cette vidéo YouTube. Vous aurez le droit à 17h à un jeu de rôle animé par Fibre Tigre et la team Backseat, un jeu de rôle spécial politique. Et dans la deuxième partie d'émission, on continue. On ne quitte pas l'antenne, on sera toujours dans le grand amphi de la Sorbonne et vous pourrez assister à un grand oral des têtes de liste à l'élection européenne. On sera à quelques jours seulement du premier tour, donc une programmation absolument exceptionnelle que nous vous proposons en partenariat Backseat Libération. D'ailleurs, Libération, avec le code promo Backseat, vous pouvez avoir un mois gratos, même pas besoin d'enregistrer sa carte bancaire, tranquille, allez-y, profitez-en. À un mois du premier tour des européennes, c'est à mon avis le bon moment pour choper un abonnement gratos à un grand quotidien national. Surtout, n'hésitez pas. Chers amis, je vous propose qu'on parle de l'actualité de la semaine. C'est parti pour l'actu de la semaine. Et l'actualité, elle a été marquée cet après-midi par un discours d'Emmanuel Macron, un discours fleuve dans le grand amphi de la Sorbonne, l'amphi Backseat. un discours fleuve, un discours de la Sorbonne sur l'Europe. C'est important de rappeler que ça fait écho à un ancien discours de la Sorbonne. Quand on parle du discours de la Sorbonne, on parle d'un discours qui a été prononcé le 26 septembre 2017 par le nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Il n'était plus candidat, il était président de la République et il avait voulu marquer le coup en donnant sa vision de l'Europe. C'est là qu'il avait parlé d'autonomie stratégique, c'est là qu'il avait fait un long discours auquel on s'est tous référé en parlant du fameux discours de la Sorbonne, l'ambition européenne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est effectivement un grand européiste. Et il avait prononcé ce discours. Et là, à quelques semaines du premier tour des élections européennes, tiens comme par hasard, il nous refait le coup du discours de la Sorbonne. Un discours que j'ai regardé cet après-midi. Il a duré 2 heures, le discours. Je me le suis bouffé en vitesse x2 sur YouTube. C'est pas une blague.
Et c'était vitesse 1.5 ici.
Toi, t'as une vitesse 1.5. Ouais, non. Moi, j'ai accéléré, j'en pouvais plus. Donc x2 pour moi, pour écouter ce long discours fleuve d'Emmanuel Macron. On va avoir l'occasion d'en parler de ce discours d'Emmanuel Macron, mais d'abord une question que je vous pose, est-ce que c'est l'entrée en campagne finalement d'Emmanuel Macron pour ces européennes ?
On attendait que la campagne de Renaissance démarre. Elle a commencé, on avait donc le directeur de campagne de Valérie Ayer, Emmanuel Macron, aujourd'hui à la Sorbonne.
Ah, oui, c'est ça.
Mais pas la candidate principale.
Mais on attend toujours Valérie Ayer pour faire un grand discours, voilà.
Mais personne ne la respecte, en fait. Genre, Attal, il ne la respecte pas. Il était là en mode « Non, mais la campagne n'a pas trop commencé et tout. » Elle était là en mode « Je fais des tractages, monsieur. »
C'est très particulier, la campagne de la République en marche, pardon, qui s'appelle Renew, Renaissance. D'ailleurs, c'est important, le nom Renew, c'est le nom d'un groupe européen. Mmh. Et c'est important pour le parti d'Emmanuel Macron de porter le même nom que le parti européen. C'est pour dire à quel point ils sont très européistes. Parenthèse fermée, c'est très, très bizarre, cette campagne, effectivement, qui se fait à plusieurs voix. Valérie Ayer est très peu audible. Emmanuel Macron en majesté et Gabriel Attal au quotidien à la Sarkozy, des annonces.
On avait déjà vu ça avec Nathalie Loiseau à l'époque, à la dernière élection européenne, où ça avait tardé, ça avait pris du temps. Nathalie Loiseau n'était pas très audible et c'était Emmanuel Macron qui avait pris la parole par des petits discours détournés, des petites prises de parole détournées pour faire campagne. Bon, est-ce que c'est faire ? Chacun en pense ce qu'il veut.
Emmanuel Macron, dans ce discours de la Sorbonne d'aujourd'hui, a martelé un thème qui lui semblait important, c'est l'Europe est mortelle, l'Europe peut mourir, et ça ne dépend que de nous et de nos choix. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron souhaite marquer le coup en donnant une espèce de gravité à la situation. Mais c'est une ficelle qui est un peu classique chez Emmanuel Macron de donner de la gravité,
c'est
en
ça,
disant
c'est pas la première
les gens ne se rendent pas compte, on dépense trop d'argent depuis le Covid... Drama King.
C'est la même chose pour la dette. C'est la même chose pour le déficit. C'est la même chose pour l'Europe. C'est la même chose sur la rhétorique du réarmement. Le réarmement démographique, le réarmement militaire.
Absolument. Sinon, on va perdre la guerre.
Avec Emmanuel Macron, et même d'un point de vue natalité, avec Emmanuel Macron, on a toujours l'impression d'être au bord de la falaise.
Ouais.
Alors parfois, en tant que jeune, on va lui dire « La faute à qui ?» Ça va faire 10 ans que t'es là, poteau.
Non, mais c'est vrai. Il a quand même un argument que je vous propose d'interroger. C'est le risque qui pèse sur la démocratie libérale. Le modèle de la démocratie libérale, le modèle historique européen, avec des élections, avec des représentants, avec des partis, avec des médias libres, etc., est aujourd'hui tensé violemment par des empires phénoménaux comme la Chine, la Russie, l'Amérique de Trump. Est-ce qu'effectivement, Macron n'a pas quelque part raison lorsqu'il dit que l'Europe peut crever ?
C'est une énorme question. Je ne sais pas si vous voulez répondre avant.
Alors, moi, je me lance.
Allez, vas-y.
Moi, je trouve que Macron n'est pas le démocrate qu'il prétend être en termes de partage du pouvoir. Donc, ne serait-ce que déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Là, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Valérie Ayer. Moi, je pense... Je suis en train de me demander si Clément Beaune, qui a malheureusement été touché par la malédiction Baxit, donc c'était l'ancien... donc il était ministre ou secrétaire d'État, je me rappelle.
Ministre
des Transports et son fer de lance sur les questions européennes. Est-ce que ça aurait été vraiment pareil ? Déjà, ça, c'est la première question, parce que je trouve que déjà, en plus, En Marche, on a un rapport assez spécial aux femmes. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais en fait, en France, en termes de violence policière, en termes de partage du pouvoir, etc., on n'est pas les plus démocrates. Après, on n'est pas la Chine non plus, on n'est pas la Russie non plus, certes, mais des fois, il faut quand même un peu
de devant mais ça. Non, mais je te suis, Lorraine. La réalité, c'est qu'il faut aussi se dire les termes. On traverse une crise démocratique. Et c'est vrai que la première responsabilité incombe à Emmanuel Macron, à sa gouvernance. Il faut quand même se rappeler de la manière... Notre génération a été traitée après des mouvements sociaux, après le post-49-3 suite à la réforme des retraites, avec même le 49-3 en soi. Et moi, ce que je me rends compte aussi quand on parle à des gens de tous les jours, même moi, ma maman qui est aide-soignante, je suis désolée, là je parle un peu de ma vie, mais j'ai l'impression que, en vrai, on parle de nos vies. Elle est aide-soignante et elle me disait, en fait, moi, la démocratie, ça ne me touche pas dans mon quotidien. C'est-à-dire que le sens au travail, je ne le retrouve pas. Ce n'est pas moi qui décide de comment je peux mener mes missions, comment je peux mener mon travail, comment je mène mon emploi du temps, quel sens je donne à ça aux patients. Voter, ça n'a pas de sens pour moi parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ne respecte pas ce pourquoi je vote. Quand je vote, j'ai l'impression qu'on trahit le programme pour lequel j'ai voté. La pratique du pouvoir qu'on est en train de connaître, elle s'autoritarise. Et oui, on est en train de faire face à une crise. Ça ne veut pas dire qu'on a changé de régime. Évidemment qu'on reste dans une démocratie qui respecte certains droits fondamentaux, bien que pour moi, on reste en ce moment dans une montée en autoritarisme. Il faut voir la manière, on en parlera, dont a été traité le mouvement pour la Palestine. Et du coup, pour moi, on va peut-être faire face à deux blocs. C'est-à-dire que, je ne veux pas être alarmiste, mais on va être dans un temps, pour moi, de flou dans les années à venir, où il y a des gens comme moi, j'assume, qui se mobilisent pour une autre démocratie, pour une démocratie où c'est en fait les gens qui travaillent, qui pourront prendre les décisions leur lieu de travail, qui pourront en fait occuper une représentation des décisions. Et ça, du coup, c'est sortir de la démocratie libérale. C'est une autre forme de démocratie qui est une démocratie des travailleurs et du partage. Et après, moi, je pense qu'il y a des gens qui portent d'autres projets politiques. Et là, c'est celui de l'extrême droite. Et là, dans ce cas-là, c'est une partie de la société qui, face à cette crise libérale, vont demander plus d'ordre, plus d'autoritarisme, ça va être très compliqué.
Peut-être que c'est pour ça que Macron dit que la démocratie est menacée quand on a un Bardella à plus
de 30%. Mais c'est quelle démocratie ? Et c'est cette démocratie libérale.
Malek.
Et surtout, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'on se demande où est la promesse européenne, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un cycle, est-ce que l'Europe ne va pas finir par mourir ? Ça partait surtout du point de vue que les électeurs, en réalité, s'en tapaient un petit peu. Là, en réalité, si on prend même aussi les dirigeants européens, On va prendre par exemple en Italie, d'autres dirigeants un petit peu partout en Europe. La vision en fait n'est plus partagée. Et donc c'est pour ça que la promesse est mise en danger. Tout le monde n'est plus d'accord en fait autour de la table. Qu'est-ce qu'ils veulent en réalité tous? Est-ce qu'ils sont tous d'accord aujourd'hui pour sur ce projet européen, sur cette nouvelle Europe, sur l'Europe de la défense dont nous a parlé Emmanuel Macron cet après-midi, sur ce réarmement, sur tout ça? Est-ce qu'ils sont tous d'accord en réalité? On le voit même d'ailleurs sur la question ukrainienne. Certains se prononcent plus que d'autres et c'est un vrai débat qu'il faut se poser.
Il y a une évolution entre le Macron de 2017 et le Macron de 2024. Il est moins béni oui-oui, il est moins dans l'incantation vis-à-vis de l'Europe, ne serait-ce que parce qu'il y a un bilan. Déjà, il est obligé de défendre un bilan. Et il le fait, il met en avant les succès de l'Europe, l'accord franco-allemand pour un endettement commun qui a donné naissance à 800 milliards d'euros de plan de relance. C'est un truc qui est absolument phénoménal et ça il en fait des tartines dessus. Plusieurs accords qui ont été trouvés au niveau européen, y compris des législations récentes, le pacte vert. Alors il met un peu en sourdine le pacte vert à cause des agriculteurs. Le pacte asile-immigration, ça pour le coup il est dans le j'assume. C'est une responsabilité de chef d'État, de gouvernant européen. D'ailleurs il l'a redit, l'Europe doit se réarmer par ses frontières. C'est par ses frontières que l'Europe défendra son identité, etc. Ça pour le coup c'est extrêmement assumé de sa part. Pour le coup j'ai eu du mal à trouver dans son discours de cet après-midi un souffle nouveau, une vision nouvelle, une volonté. J'ai l'impression que lui aussi c'est un peu les illusions perdues quoi.
Ouais.
C'est fini l'Europe qui fait rêver, maintenant c'est l'Europe du réalisme brut.
Il a
dénoncé, et c'est assez juste, le fait qu'on joue avec la Chine et la Russie qui ne respectent plus les règles, qui ont décidé de sortir des règles internationales. Et donc Emmanuel Macron, il dit il faut un sursaut européen, il faut que l'Europe se réarme, il faut que l'Europe comprenne qu'elle va devoir se battre avec des gens qui ne respectent pas les règles.
Tu l'as dit, il y avait un truc très rêveur. Je rappelle que Emmanuel Macron, quand il gagne en 2017, il fait son entrée devant le Louvre avec l'Ode à la joie en fond sonore.
Oui.
Il fait cette grande marche. Il nous a fait des grands discours pendant la campagne de 2017. Aujourd'hui, tu l'as dit, il est porteur d'un bilan. Et aujourd'hui, cet après-midi, est-ce qu'on a eu quelque chose de nouveau en fait pendant ce discours? C'est pour ça que je me demande en fait, je me demande l'intérêt en fait de ce discours de la Sorbonne 2024 à part servir la campagne électorale de Valérie Ayer. C'est pas un discours de chef d'État qui veut balancer de nouvelles idées et une nouvelle vision et proposer des choses. On a entendu que des choses qu'on avait déjà entendues, mais avec de nouveaux termes. Et rien de nouveau en tout cas.
Si, il propose la majorité à 15 ans pour le numérique.
Ah.
L'interdiction de s'inscrire sur des réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans, sauf accord des parents.
L'Europe est sauvée donc.
Waouh.
Safia, toi t'as été marquée par le discours de Gabriel Attal sur la jeunesse.
Tout à fait, j'aimerais vous en parler parce qu'en fait, Lorraine en parlera mieux que moi, mais la réalité c'est que au-delà de Valérie Ayer, on a dit à Emmanuel Macron, mais aussi Gabriel Attal, qui viennent agiter le spectre des élections européennes avec justement cette conférence qu'il y a aujourd'hui, mais aussi avec les réformes de Gabriel Attal qui sont successives. Et à Gabriel Attal, il s'adresse spécifiquement à nous les jeunes, mais d'une manière qui est assez hardcore, parce qu'en réalité, dans un corps de jeune, il fait du vieux. Je m'explique.
Ces
annonces, elles reposent sur deux piliers. Le premier, c'est qu'il souhaite réformer, si vous voulez, la justice pour mineurs, pour simplifier. Dans la justice pour mineurs, il y a un principe assez clair, qui s'appelle l'inversion de principe. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, je ne suis pas juriste, mais qui en fait, si vous voulez, découpe la peine en deux pour les mineurs, qui la réduit de moitié la plupart du temps.
La peine encourue.
Exactement, la peine encourue de moitié. Et lui, il veut revenir sur ça, parce que vous l'avez sûrement vu, on est dans une ambiance où eux vont beaucoup parler de parents défaillants, de jeunes des quartiers populaires, de rixes, de jeunesse violente, d'une jeunesse qui serait matrixée par les réseaux sociaux et les jeux vidéo, etc., faisant totalement fi en fait, de nos conditions sociales, de nos conditions économiques, de la ghettoisation qu'on subit, de l'état de l'éducation, de l'école, etc. Et en fait, il a totalement déporté le débat justement sur cette question qui est plutôt en fait en réalité assez autoritaire. Il faut savoir que cette revendication, elle a été portée par le Rassemblement national en 2022. Et vous allez retrouver possiblement un article dans Le Monde qui dit très bien, en réalité, ça fait 80 ans que tout camp politique de tous bords essaye justement de s'attaquer à la justice pour mineurs. Et enfin, le deuxième pilier, c'est celui, vous savez, les annonces sur l'internat. Il s'est beaucoup fait moquer Gabriel Attal justement par des jeunes et j'ai kiffé comment ces jeunes ont pu lui répondre justement. Et justement, il disait, voilà, il faut que les jeunes à la dérive puissent aller à l'internat. Alors premièrement, c'est quoi être à la dérive? Tu parles de quoi? Du fait qu'on a du mal à manger à la fin du mois quand on est dans les quartiers populaires, que nos parents sont ouvriers, que quoi, qu'on a des difficultés scolaires? Comment est-ce qu'on nous prend en charge? Les moyens pour les profs? Pas du tout. C'est un flou intergalactique, la jeunesse à la dérive. Et il incite à un volontariat dirigé. C'est-à-dire, il aimerait que l'école, l'académie, le rectorat force un peu, mais pas trop, mais force bien, bien, bien quand même, les parents à envoyer en fait les enfants, les élèves dans des internats que eux auront choisi avec le personnel qu'ils auront choisi, qui sera sûrement un personnel de type SNU. Vous voyez le genre de mise au pas très brut qui sera. En réalité, pourquoi est-ce que c'est encore du vieux et que c'est pas du neuf et qu'il a pas sorti cette idée de son chapeau? Faut savoir que l'internat, c'est une vieille idée issue de la colonisation. En réalité, pendant la colonisation, les pouvoirs coloniaux, en lien avec l'Église, ça s'est beaucoup fait au Canada, mais aussi en Afrique, ont regroupé soit les jeunesses autochtones, soit les jeunesses colonisées, une certaine partie, dans des internats pour être sûr que cette jeunesse, qui parfois est difficile, hein, on lui miette bien les valeurs dans la peau et dans le cerveau, vous savez, dans un élan un peu de mission civilisatrice. Alors évidemment, on est dans un contexte qui est différent, qui n'est pas celui de la colonisation, mais Gabriel Attal est en train d'emprunter à cet esprit-là pour en réalité nous mettre au pas et nous mettre des valeurs dans la tête qui sont en réalité totalement à l'opposé des valeurs d'émancipation que la jeunesse essaye de porter.
Bon, en fait, c'est ça. Quand on n'a rien à proposer, en fait, finalement, de nouveau, et justement, il n'y a pas vraiment d'éléments nouveaux, que ce soit dans le discours d'Emmanuel Macron et dans celui d'Attal, bah, finalement, on recycle.
On recycle,
et,
mais...
On recycle jusqu'à même dans le programme de son concurrent direct.
La question, c'est quel match on joue. Moi, j'ai l'impression qu'il joue le match contre le RN. Il est là, l'enjeu.
Bah, oh, encore...
C'est nouveau, ça.
On est étonné.
Cet autoritarisme, il vient de là. Et on sait qu'il se dispute un électorat relativement âgé.
Exactement.
Et un électorat âgé, quand tu leur vends une image sépia de l'école d'antan avec la blouse et le maître qui tape sur les doigts des élèves, ça, ils adorent, les vieux. Mais ils n'ont pas foutu un pied dans une école depuis 40 ans. Donc, on a cet enjeu-là, ils se battent autour. On a un enjeu démographique majeur. Mm-hmm. Les jeunes sont minoritaires, c'est une minorité éternelle, la jeunesse, par définition. Ouais. Mais c'est une minorité aussi démographique en ce moment et qui fait qu'elle ne peut pas gagner dans les urnes. Donc, on est obligé de faire avec des vieux.
Bah,
donc,
déjà,
un jour, il va falloir convaincre les vieux d'arrêter de mal regarder les jeunes.
Ouais. Non seulement déjà, on est minoritaire en tant que jeune, mais aussi, en plus, on ne se mobilise pas. Donc, ils sont là... À quoi bon leur parler? Au contraire, on va un peu jouer un match intergénérationnel, génération contre génération. Et voilà, en fait, et c'est tout ce qu'il y a à proposer pour l'instant.
Sur le match Renaissance-RN, en fait, au-delà d'être une recette qu'on a déjà vue et revue, il est un peu bloqué, en fait, Emmanuel Macron, parce que Quentin le disait très bien tout à l'heure, Bardella aujourd'hui ne défend plus le Frexit, c'est ce que défendait à l'époque.
Il défend plus rien, c'est aussi ça la nouveauté. Ouais, on va en parler tout à l'heure.
Il défend des TikTok, c'est plus sympa. on peut même prendre aussi du côté de la France Insoumise qui défendait donc un plan A, un plan B. C'est plus vraiment le discours aussi de Manon Aubry. Donc aujourd'hui, sur cette confrontation où c'est ce qu'il aime bien de faire ça, Emmanuel Macron, c'est il dit à chaque fois c'est moi ou le chaos. Évidemment que l'extrême droite ce sera toujours le chaos, mais bon, en réalité, il fait que, et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, il ne fait que faire monter l'extrême droite. On en parlera tout à l'heure avec notre invité politique, mais je pense que la majorité a une petite responsabilité.
Alors, on va parler de l'extrême droite, mais avant ça, il y a un autre discours qui a été prononcé hier.
Qui ça?
C'est Raphaël Glucksmann, figure-toi. Ah. Raphaël Glucksmann qui a vu le discours de Macron prévu le 25, s'est dit « Oh putain, j'ai un discours la veille, je vais te faire le meeting de l'année, mon gars. » Et il a tout fait péter, c'était ici à Strasbourg, il en a fait son grand discours de campagne juste avant le discours d'Emmanuel Macron. Discours intéressant pendant lequel il a dénoncé la faillite stratégique de Macron face à Poutine. Mmh. Ce que veut dire en fait Raphaël Glucksmann, c'est que 2017, discours de la Sorbonne, plein de volontarisme d'Emmanuel Macron, le grand européen, etc., 2020, c'était en quelle année Poutine, c'était 2019. Oui, c'est ça, la russophilie d'Emmanuel Macron en 2019, qui invite Vladimir Poutine à Versailles pour discuter. Selon Raphaël Glucksmann, ça a tué complètement l'esprit européen d'Emmanuel Macron. Raphaël Glucksmann, il est connu politiquement pour ses combats internationaux. Il est connu pour sa défense des Ouïghours, qui est une minorité musulmane opprimée par la Chine. Et il est connu pour sa défense de l'Ukraine, envahie par la Russie. Est-ce que ce diptyque-là suffit à faire une campagne pour Raphaël Glucksmann. Visiblement, dans les sondages, ça a l'air de le porter. Elle était bonne, cette question.
Moi, je pense qu'il joue sur plusieurs plans. Peut-être Malek t'en parlera mieux que moi, mais il y a un premier électorat, moi, je pense, avec la question internationale du Gour. Je ne sais pas si tu veux revenir dessus. Et pour moi, il y a un autre électorat sur la question de la défense.
Oui, je ne suis pas du tout docteur en sciences politiques et je salue l'ami Antoine Bristiel. mais je suis
le
pas
docteur.
Le docteur.
Il a fait une super interview d'ailleurs, allez la lire.
Ouais,
dans
ouais.
Figaro.
Mais mangez tout ce que fait Antoine Bristiel, mangez-en, c'est bon pour la santé. Vas-y, continue Malek.
Il y a une forme de vote utile, comme c'était un petit peu le cas pour Jean-Luc Mélenchon sur l'élection présidentielle de 2022. Il y a une forme de vote utile là autour de Raphaël Glucksmann. On voit que 27% qui ont voté, 27% de ceux qui se prononcent aujourd'hui, comme voulant voter pour Raphaël Glucksmann, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022. 10% ont voté pour Emmanuel Macron. Donc on voit qu'en réalité, il veut faire un petit peu ce pont de « je remplis l'espace entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ». Mais sauf qu'en fait, à force de vouloir faire un grand écart, mon grand, tu vas finir par te claquer. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une forme de flou, qu'il y a d'un côté celui qui parle sur ces sujets internationaux, mais pas tous, j'en parlerai après, et ce sérieux sur la défense. Et on l'a vu hier aussi, d'ailleurs, dans son discours, il se pose en confrontation directe à Emmanuel Macron pendant tout son discours. Voilà,
oui,
il est le premier opposant Emmanuel Macron.
Premier opposant Emmanuel Macron qui essaye de défendre une nouvelle vision d'une Europe anti-Macron. Safia, et après on parlera des sondages, c'est intéressant.
Ouais, parce que moi, du coup, je voulais parler de l'autre partie de l'électorat qui essaye de séduire Raphaël Glucksmann, qui est plus la partie, on va dire, macroniste de l'électorat. Moi, je pense qu'en réalité, il se crame pas beaucoup en parlant des Ouïghours et de l'Ukraine avec l'électorat macroniste ou plutôt parti socialiste. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on parle des Ouïghours, en réalité, on parle de la Chine et de l'impérialisme chinois, etc. Par contre, Raphaël Glucksmann va toujours se garder de parler des sujets internationaux qui ont à voir avec les responsabilités occidentale. Et c'est pour ça que, notamment sur la question de la défense, Raphaël Glucksmann est très aligné sur la position d'Emmanuel Macron. En réalité, les deux rêvent d'un Occident qui est fort, d'une Union européenne qui est forte. Raphaël Glucksmann est quand même ultra guerrier, en fait, dans le meeting qu'il a eu hier. Il rêve d'une Europe de la défense. Il est très otaniste, en réalité. Moi, je sais qu'en tant que jeune, ça me fait assez peur parce qu'on est dans un contexte d'escalade militaire qui est très préoccupant. Mais du coup, sur ça, justement, il a fait une accusation à Emmanuel Macron, vous l'avez peut-être entendu, c'est Emmanuel Macron, grosso modo, il fait du blabla alors que moi, je suis un homme d'action et c'est là où il va essayer de manger sur l'électorat.
Pour préparer cette émission, on s'est amusé à aller rechercher les sondages du mois d'avril 2019 pour voir ce que ça donnait avant l'élection 2019 pour comparer avec les résultats. Je ne sais pas du tout si ce sera la même au cours de cette élection, mais il y avait eu des surprises. Par exemple, les Républicains, ils étaient surestimés dans les sondages. Ils étaient donnés à 15%, ils se sont pétés la gueule à 8%. Et là, ils repartent avec la même tête de liste. La République En Marche, ils avaient fait exactement le même score que ce qui était prévu par les sondages, c'était 22%. Les Socialistes, ils étaient prévus à 6, ils ont fait 6. Ils ont fait exactement ça. Et ensuite, tu as le duo Vert-France Insoumise, où il y a eu une inversion complète. La France Insoumise était donnée à 9% et ils sont tombés à 6% finalement. Et les Verts, ils étaient donnés à 8%. Et agréable surprise pour les Verts, ils sont montés jusqu'à 13%. Je ne sais pas si on aura les mêmes dynamiques au cours de cette élection, mais ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas à gauche, c'est Raphaël Glucksmann qui est aux alentours de 12%. Est-ce qu'il est surestimé? J'en sais rien. Tu parlais d'un vote utile, toi, tout à l'heure, Malek.
Oui, et ce que je voulais dire surtout, c'est que les Verts aujourd'hui sont annoncés très bas. Et ils jouent un petit peu dans les médias aujourd'hui sur cette petite musique de oui, mais aussi on était annoncé très bas en 2019 et regardez ce qu'on a fait.
Ils jouent là-dessus, bien sûr. Et ils se le disent en interne.
Donc suivez le train. Ça, c'est sur notre partie gauche. Moi, ce qui m'inquiète aussi surtout, c'est le score que l'on attribue aujourd'hui dans les sondages à Jordan Bardella pour l'extrême droite. Pour le Front National, on l'annonce à 32%. C'est énorme. Est-ce qu'il est surgonflé ou est-ce que, et moi c'est peut-être un petit peu même ma peur, est-ce qu'il n'est pas sous-estimé? Puisqu'en réalité, on peut voir, il peut y avoir un bond dans un sens comme dans l'autre. Moi, c'est plutôt comme ça en fait, que je vois, où je me demande si les instituts de sondage vont tomber juste ou pas.
Voilà. Encore une fois, grande particularité des élections européennes, c'est la volatilité des électorats, c'est phénoménal. Les décisions se prennent dans les jours qui précèdent, si ce n'est le jour J devant le bureau de vote, et même la décision de participer à l'élection ou de ne pas y participer. Il y a quand même un énorme taux d'abstention aux élections européennes, et c'est ça qui joue, c'est la mobilisation, comme beaucoup, qui peut renverser l'élection. Il y a un autre meeting qui s'est tenu à Strasbourg aussi, c'était mardi, c'était celui de Manon Aubry, la tête de liste pour la France Insoumise. On a un extrait vidéo de ce meeting de Manon Aubry, qui s'est passé dans un contexte un petit peu particulier. C'est le contexte des convocations judiciaires de Rima Hassan et de Mathilde Panot pour apologie du terrorisme, entre guillemets, de scandaleuses tentatives du pouvoir policier d'intimider des femmes politiques en pleine campagne, en leur reprochant des propos tenus ou des absences de propos tenus dans le contexte post-attaque du 7 octobre dernier. C'est un contexte très particulier parce que la France Insoumise mise beaucoup sur Rima Hassan, donc il y a une volonté de la part de la France Insoumise d'aller sur le terrain du conflit israélo-palestinien, mais à leur corps défendant aussi, ils sont mis sur le conflit israélo-palestinien par ces décisions. Est-ce que c'est une stratégie intéressante pour eux? Est-ce qu'ils sont dans la merde du coup à cause de ça?
Avant de revenir sur la stratégie, Jean, il faut dire que ce qui se passe, c'est un petit peu un tournant. On a une présidente d'un groupe d'opposition qui va être convoqué
par la police.
Ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'elle n'est pas convoquée suite à une auto-saisine du procureur de la République, mais suite à une plainte d'un collectif d'avocats. C'est simple, ils ont déposé des plaintes contre tout le monde. Daniel Obono, Rima Hassan, Mathilde Panot, ils se sont dit bon, on verra sur qui on va tirer des flèches, on va voir sur où est-ce que ça va planter. Et finalement, c'est rentré. Mais ce ne sont que des convocations par la police, on le rappelle. Tu l'as dit, Manon Aubry, en décidant de mettre Rima Hassan, qui est donc 1, 2, 3, présidente de l'Observatoire des camps de réfugiés palestiniens.
Et elle-même franco-palestinienne.
Exactement. Elle décide de mettre, donc, en la mettant en position éligible et en parlant de Gaza aussi pendant cette campagne, elle décide de mettre donc la question de Gaza au cœur de la campagne.
Ouais.
Bon, ben moi, j'ai envie de te dire... dans un sens inverse, parce que c'est aussi des potes qui m'en ont parlé, en réalité, c'est la seule à le faire sur tous les chiquiers pendant la campagne européenne.
Et donc, ça peut mobiliser un électorat, tu penses ?
Ça peut en chasser, comme ça peut en surmobiliser en réalité, parce que moi, j'ai des potes qui clairement sont tapés total des européennes, mais sont en train de me dire, bon, la seule qui est en train de parler aujourd'hui de Gaza au point de vouloir mettre une réfugiée palestinienne au Parlement européen, c'est Manon Aubry.
Donc intéressant. Les questions internationales sont rarement les questions les plus décisives dans les élections d'une manière générale. C'est pour ça que je pose la question. Si tu regardes les priorités qui sont données par les électeurs, c'est d'abord l'inflation, le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité. Enfin, tu vois, c'est un peu les thèmes classiques. La question internationale est rarement prioritaire.
La donne a changé aussi ces quelques
années.
Et là,
avec l'Ukraine et la Palestine, ça, je pense que ça a redéplacé beaucoup de choses.
Ouais, c'est possible que l'Ukraine aussi, tu as raison, ait bougé les choses.
Ça fait partie des préoccupations des Françaises et des Françaises, malheureusement. Enfin, on voit la planète en guerre
De
part et d'autre. Il y a de l'éco-anxiété chez la jeunesse notamment, mais ça m'étonnerait pas que on montre également qu'il y a une anxiété en fait par rapport à la guerre en fait. Surtout que contrairement à d'autres générations, on n'a pas connu de guerre. Et j'espère que ça restera comme ça.
Je suis d'accord avec toi. C'est le retour du tragique dans l'histoire, pour citer un grand homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Safia, toi, tu es aussi inquiète de cette ambiance répressive ?
Je suis très, très inquiète de cette ambiance répressive, sachant que... Alors moi, je suis étudiante à Nanterre, donc j'ai milité sur la fac, sur la question palestinienne. Donc il faut savoir qu'en fait, ça fait des mois qu'on est harcelé ou menacé de mort, en fait, que ce soit en physique ou sur les réseaux sociaux, qu'on a des meetings, des événements qui ont été annulés parce que les présidences de nos facultés, dès qu'on a un événement qui s'organise, en fait, il y a des centaines, voire des milliers de mails qui sont envoyés et ciblés en fait, par les présidences d'université de personnes qui soutiennent inconditionnellement les agissements de l'État d'Israël. Et en fait, ces mails-là sont très souvent menés par les mêmes personnes qui sont capables, de manière groupée, d'organiser des plaintes contre certaines figures militantes.
D'accord. D'où les annulations en cascade.
Exactement. Et d'où les annulations en cascade, du coup, dans les facs. Mais ça, c'est lié aussi avec, du coup, l'annulation de la conférence à Lille de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qui a été scandaleux pour moi, ce qui a été un tournant et ce qui fait qu'on est sorti, entre guillemets, de notre entre soi un peu répressif dans le monde universitaire. Pour moi, c'est ces dernières semaines où la conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan, elle a été annulée une deuxième fois. Il faut savoir que le jour même, donc c'était jeudi dernier, il y a un syndicaliste de la CGT, CGT Nord, qui a été condamné à un an de prison avec sursis pour son soutien à la Palestine. Ensuite, on a eu des convocations en cascade d'Anas Kazib, syndicaliste Sudrail, de Sima Asbag, ensuite Mathilde Panot, Rima Hassan. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, on ne peut pas maintenant s'arrêter de se dire à qui le tour. Et y a beaucoup de voix qui se sont prononcées, notamment à travers les réseaux sociaux, des voix qui sont plus à gauche que LFI. Donc on a les Olivier Besancenot, on a Anas Kazib, on a des organisations comme la Jeune Garde, on a aussi des organisations associatives qui ont dit « Et si on ne rentrerait pas dans une dynamique unitaire ?» Meeting, manifestation, rassemblement, collectif d'avocats, on n'en sait rien, pour faire en sorte qu'on ne se dise plus à qui le tour et qu'à chaque fois que l'un d'entre nous est touché, on riposte collectivement. Et là, c'est vrai que LFI s'est toujours positionné contre la répression, mais moi, ce qui m'a étonnée, c'est que LFI a parlé des étudiants, a parlé du syndicaliste, ils ont parlé d'eux, mais ils ont très peu parlé des figures militantes et politiques qui sont plus à gauche qu'eux, plus petits qu'eux, qui ont été victimes de la répression. Parce que je pense qu'en fait, pour la France
insoumise... En même temps, ils ont refusé de faire alliance avec eux, donc...
Oui, mais justement, moi, c'est ce que je me dis, c'est que dans un contexte de répression, on est censé mettre de côté les enjeux électoralistes. Parce qu'il faut savoir que pour LFI, l'enjeu pendant les élections européennes, je suis désolée, je bégaye un peu, j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est qu'en fait, ils veulent dire, nous, dans la cour des grands, on est les plus à gauche, on porte la voix de la Palestine. Donc si vous voulez... S'ils se mettent un moment dans une dynamique unitaire et que les gens se rendent compte qu'en fait, il y a plus à gauche qu'eux et il y a des gens qui portent aussi la question palestinienne, bah forcément, ça peut noyer leur stratégie. En tout cas, ils ont une inquiétude. Et moi, je ne pense pas qu'ils devraient tellement s'inquiéter de ça parce qu'en réalité, je pense que les gens seront satisfaits d'une prise de responsabilité commune sur la question de la répression parce que ça inquiète beaucoup de gens.
Je comprends ce que, le seul truc que je pointais, c'est que la France insoumise a refusé de faire alliance avec le NPA pour les européennes et que du coup, c'est compliqué cette démarche unitaire... pour eux de le faire, du coup, c'est le drame de la politique.
Hein. Mais après, il y a quelque chose où en politique, c'est quand même pensé, c'est que dans un contexte de répression, le front uni peut exister. Ça ne veut pas dire qu'on discute des enjeux électoraux ou des enjeux stratégiques. Ces enjeux-là, pardon, sont souvent mis de côté quand on parle de répression.
Ouais. Lorraine, toi, tu faisais un parallèle avec Glucksmann et son combat pour les Ouïghours. Le fait de placer comme ça un combat international en fait.
Exactement. En fait, Raphaël Glucksmann a été notamment connu sur son réseau social, je pense, préféré, Instagram, pour avoir défendu la minorité ouïghour avec le fameux mouvement des PP, des profils...
Photos
de profil bleu sur Instagram, ou même, en fait, moi, ça m'a super étonnée dans mon entourage, des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à la politique avaient mis des photos de profil bleu, voire même, limite, j'étais une des dernières au courant dans mon entourage, j'en avais l'impression, parce que je ne follow pas Raphaël Glucksmann, mais bon, bref.
Sniper, c'est parti.
ça, c'est dit. Non, je rigole. Mais il met en avant ça. Et de l'autre côté, il y a le va-t-en-guerre. Donc, effectivement, il est... déjà, il ne parle pas de tous les conflits, ou en tout cas, il n'est pas aussi clair sur tous les conflits, notamment sur Gaza. Et justement, dans le contexte de répression, il y a LFI aussi qui est beaucoup, beaucoup accusé de mobiliser l'électorat musulman. Et tout à l'heure, on parlait de...
Accusé par les
fachos, clairement. Mais moi, ce qui me fait un petit peu peur dans cette stratégie d'internalisation, de mettre la question de Gaza en premier plan de la stratégie politique, même si c'est une question importante, c'est moi, justement, est-ce que ça ne va pas faire monter le RN, en fait, dans les urnes, en fait. Et moi, c'est vraiment une inquiétude que j'ai.
Puisque t'en parles,
les immigrés aussi, quoi.
Puisque t'en parles, et on était juste, la transition est tout trouvée, je voulais qu'on parle justement du Rassemblement National. N'y a-t-il pas un paradoxe du RN donné aussi haut dans les sondages? Tu l'as dit, Malek, plus de 30%. Ils ont placé au cœur de leur campagne, la campagne de Jordan Bardella, la question de l'immigration. Et pourtant, c'est pas du tout un enjeu central dans les sondages. Pour les gens, 25%, voilà. C'est la place de l'immigration.
Est-ce qu'on est surpris?
Oui, non, mais d'où ma question. Comment t'expliques le paradoxe?
Ça peut aussi être une stratégie gagnante, j'ai envie de te dire, de ne pas prendre une des premières préoccupations, mais de se dire on va prendre une préoccupation de niche, donc les fachos, en leur donnant ce qu'ils veulent pour qu'ils votent pour nous. Il y a aussi c'est pas forcément l'enjeu du nombre sur les élections européennes, mais c'est surtout la question de la mobilisation. En réalité, la vérité, c'est que l'électorat de gauche va très peu se mobiliser là où aujourd'hui l'électorat de l'extrême droite voit une aubaine folle de, encore une fois, gagner une élection avec un nouveau visage, Jordan Bardella, qui est tant adulé par cet électorat, parce qu'en plus de ça, il leur vend avec ce truc New Wave un discours qui leur convient toujours.
Et c'est aussi une particularité aussi de l'extrême droite, c'est la jeunesse de Jordan Bardella. Mm-hmm. Enfin, ils peuvent présenter... l'extrême droite a été représentée par le vieux Jean-Marie pendant des décennies.
N'est-ce pas ?
On est arrivé... ensuite, il y a eu du renouveau avec Marine Le Pen, mais enfin, c'est pas non plus la fraîcheur de la jeunesse. Et Jordan Bardella qui débarque et qui est vu par toute l'extrême droite comme le renouveau, il est exceptionnel, il est formidable, c'est le meilleur.
Le gendre idéal, exactement.
Voilà, le gendre idéal, le fameux gendre idéal. Vous savez que c'est vachement important pour beaucoup d'électeurs, ça.
Ouais,
vote au faciès, c'est un truc, les gens qui présentent bien, ils ont des bonus de voix assez spectaculaires, notamment auprès de l'électorat âgé. Ça veut dire que les jeunes ils votent pour les chums, ils s'en battent les couilles.
On est déconstruit.
Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire chuter Jordan Bardella de ce piédestal sondagier? Est-ce que des frasques, des galères, des scandales? On a vu qu'il y a eu plusieurs candidats où il y a eu des sujets. Fabrice Leggeri qui est poursuivi pour crime contre l'humanité, quand même.
Ouais.
C'est quand même pas rien. Mais est-ce qu'un électeur d'extrême droite, il en a quoi que ce soit à foutre?
Qu'on rappelle peut-être qui est Fabrice Leggeri, c'est l'ancien directeur de Frontex, donc de l'agence européenne qui s'occupe, entre guillemets, de la sauvegarde des frontières et des gardes-côtes, mais qui a en réalité essuyé beaucoup de scandales. Vous vous souvenez, peut-être il y a quelques mois, en Grèce, il y a un bateau avec plusieurs centaines de personnes exilées et migrantes, en fait, qui a fait naufrage. Et on s'est rendu compte, à travers une enquête, que les gardes-côtes de Frontex n'ont pas répondu aux appels et aux appels d'urgence alors qu'ils sont censés faire des sauvetages et après traiter les questions administratives. Donc ce directeur-là, il a rejoint la liste du Rassemblement national en position numéro 2 ou en numéro 3?
Je ne sais plus, mais il
est en numéro 3, il me semble. Et alors ça, c'est depuis avant-hier. Utopia 56 et la Ligue des droits de l'homme ont porté plainte du coup contre ce Fabrice Leggeri pour...
Crime contre l'humanité. Complicité de crime contre l'humanité.
Exactement, je ne savais plus lequel
c'est l'un des deux.
C'était.
Non mais bon, t'as ça, voilà, tu le poses sur la table. T'as les détournements de fonds, on rappelle, les emplois fictifs du Rassemblement national au Parlement européen.
Petite habitude.
Non mais voilà, l'absentéisme de Jordan Bardella.
Complément d'enquête. Ah là, complément il est trop chaud. Et tu sais qu'apparemment, il y en a un deuxième qui se prépare et là, il a trop le seum. Il l'a dit sur Twitter.
Ah ouais?
Ouais. Il a carrément genre un peu spoilé
il a spoilé. Non, mais enfin, je veux dire, tu fais une collection de casseroles absolument phénoménale qui ne serait pardonnée à personne d'autre. Et Jordan Bardella, il s'en sort. Rien à foutre.
Mais parce que.
C'est ça l'extrême droite. C'est vraiment cette capacité à s'en foutre complètement des règles.
Bah, des règles. Et parce qu'en fait, ils sont vus comme un parti anti-système, entre guillemets.
Ils le
sont.
Donc
en fait, finalement, qu'il soit absent au Parlement européen,
Jordan
Bardella, c'est en mode, bah, c'est normal, on est anti-système.
Oui, bien sûr.
Il y a un membre de la communauté Baxit qui m'a dit sur Twitter à l'annonce de l'émission ce soir, plus qu'une visite à Strasbourg et puis vous serez allé encore plus à Strasbourg que Jordan Bardella.
C'est incroyable.
C'est vrai, la dernière fois que je suis venu à Strasbourg, j'ai croisé Jordan Bardella dans un couloir et il y avait des caméras et des micros, il ne s'intéressait qu'à ça, il n'était pas en séance en train de voter.
Waouh.
Voilà.
Un Pokémon rare.
Exactement. Donc voilà, donc, est-ce qu'on est en train de se diriger tout droit vers une élection remportée par le Rassemblement National de haute lutte? Même pas de haute lutte parce qu'ils ne font pas campagne. Hein. Enfin, je veux dire, Jordan Bardella est très absent. Et il en a rien à foutre. Et en même temps, il est dans la position du defender, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est en tête dans les sondages. Moins il en fait, mieux c'est. Il n'y a que des coups à prendre, il n'y a que des points à perdre. Il n'y a rien à gagner.
C'est comme Marine Le Pen. Toute la séquence 2023, elle a gagné des points sur son silence. Et ça fait partie... Enfin, en fait, leur stratégie de normalisation repose beaucoup
sur du silence ou sur des petites avancées tactiques. Sauf que là, c'est vrai que dans cette période électorale, ils sont bien emmerdés parce qu'ils ont eu des couacs sur leur liste avec différentes figures qui, du coup, ne rentrent pas dans leur stratégie de normalisation. Et ensuite, il y a l'ambiance de l'extrême droite européenne. Ils sont alliés avec des groupes qui, eux, ne font absolument pas ce pari-là.
Alors, est-ce que tu peux nous faire un point, justement, s'il te plaît, Safia, sur les groupes d'extrême droite au Parlement européen, puisqu'il y en a deux ?
Tout à fait. On a d'abord le groupe Identité et démocratie. Eux, c'est the faff of the faff. C'est vraiment les plus poussés. Alors, les trois partis majoritaires qui occupent ce groupe Identité et démocratie, on va avoir le Rassemblement national pour la France, on va avoir l'EDIA, qui est du coup le parti de Salvini, si un peu, en fait, si vous voulez, les descendants de la Ligue du Nord en Italie. Et on va avoir l'AFD en Allemagne, qui est le troisième parti qui occupe le plus de place dans l'idée. Il faut savoir que l'ambiance est assez tendue, puisqu'en fait, Marine Le Pen est assez embêtée, du coup, par ses copains et ses copines, puisque l'AFD a fait polémique ces derniers mois, puisqu'ils ont organisé, soi-disant en secret, mais ils se sont fait cramer par les journalistes, merci les journalistes, d'une conférence, voilà, d'un plan pour organiser la rémigration de personnes allemandes et étrangères dans leur pays d'origine, et ça concernait notamment principalement les personnes noires, arabes musulmanes, juives et issues du coup du Moyen-Orient, de Turquie, etc.
4 millions de personnes dans leur plan.
Exactement. Non, mais c'est important de le dire. C'est important de rappeler qu'on parlait de 4 millions d'êtres humains. Et ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, en Allemagne, il y a eu des manifestations de millions et de millions de personnes se réveillent. En tout cas, moi, m'a fait beaucoup de bien. Et Marine Le Pen a du coup envoyé un tacle à ce moment-là à l'AFD. Il faut savoir que l'AFD leur a répondu en mode « Oui, mais je comprends pas, Marine Le Pen, t'arrêtes pas de faire des sorties à Mayotte, mais nous, vous savez, on est pour l'autodétermination des peuples. » Et en fait, ils se renvoient la balle comme ça, c'est le gros bordel. Et on a un autre groupe qui est le CRE, c'est les conservateurs réformistes du coup de l'Union européenne. Et là, surprise, surprise, moi je ne savais pas, mais en fait le parti du coup de Meloni, Fratelli d'Italia, en fait font partie de ce groupe-là. Donc c'est un groupe, si vous voulez, qui se veut normalement de droite dure, qui ne s'étiquette pas extrême droite, mais en réalité on a des forces d'extrême droite qui sont dans ce groupe CRE. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux groupes ? Parce qu'on a deux personnes très importantes, le Premier ministre de Pologne et Viktor Orban de Hongrie, que vous connaissez toutes et tous pour ses sorties absolument affreuses sur les personnes LGBT, sur ses sorties homophobes et contre les personnes migrantes.
Qui sur les droits des femmes aussi.
Et sur les femmes, merci. Qui rentre en discussion avec les deux groupes, donc avec le CRE et avec le groupe du coup ID, parce qu'il faut savoir que le groupe de Viktor Orban, quand ils étaient à l'Union européenne en 2021, ils faisaient partie du groupe, on va dire, plutôt centriste de droite, PE. C'est le groupe Ursula von der Leyen, par exemple, la présidente de l'Union européenne, pardon, je vais y arriver, elle fait partie de ce groupe-là. Ils sont partis pour des raisons d'idéologie politique, et là, en fait, si vous voulez, après le 9 juin, ça va être ultra important parce qu'en fait, Viktor Orban et le Premier ministre polonais vont choisir leur groupe. Et en fait, Marine Le Pen, ce qu'elle voulait, c'est que de base, c'est que le CRE et le groupe ID se regroupent et fassent un espèce de super groupe d'union des droites pour l'extrême droite. Boum, 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 super facho, grosso modo, exactement. Sauf qu'en réalité, les désaccords sont extrêmement forts et là, les seules choses qui peuvent être envisagées, c'est une coalition. Mais il faut savoir une chose. C'est que dans la stratégie de normalisation du Rassemblement national, le Rassemblement national n'a aucun mal à entrer en négociation avec des personnes comme Viktor Orban, qui, elles, ne se cachent pas de leur extrémisme et qui, juste, et elles, Marine Le Pen et Jordan Bardella, pardon, en sont très contents d'être aux tables des négociations.
Merci beaucoup, Safia, pour ce point sur les groupes d'extrême droite au Parlement européen. On est toujours en direct ici à Strasbourg du Parlement européen. On va marquer une petite pause. Après la pause, on se retrouvera avec deux invités exceptionnels, Karima Delli, députée européenne Les Verts depuis 2009 et qui termine son mandat, et Fabienne Keller, députée européenne Renew depuis 2019, ancienne sénatrice et ancienne maire de cette très jolie ville de Strasbourg. Nous les recevrons en plateau juste après la pause. C'est parti pour la pause.
Sur Backseat, bonsoir Strasbourg. Merci à toutes et à tous d'être là. Cher public, bonsoir et bienvenue pour cette émission Backseat exceptionnelle. En partenariat avec le Parlement européen, nous sommes au Parlement européen à Strasbourg pour cette émission vraiment exceptionnelle. On est à quelques semaines seulement des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Et voilà, on est...
dans la deuxième partie de cette émission. Avant de recevoir nos invités politiques, je tenais à vous rappeler que la semaine prochaine, le 2 mai, nous aurons une émission exceptionnelle en partenariat avec Libération. Ce sera dans le Grand Amphi de la Sorbonne.
L'amphibaxite.
C'est l'amphibaxite, exactement. Il n'y aura pas François Hollande, il n'y aura pas Emmanuel Macron non plus. Il y aura Fibre Tigre avec qui nous ferons un jeu de rôle. Et ensuite, il y aura les têtes de liste aux élections européennes qui viendront faire un grand oral et répondre à mes questions et à celles des journalistes de Libération. Soyez là la semaine prochaine pour cette émission exceptionnelle. Le 2 mai, ça commencera à partir de 17h. Et si vous voulez venir sur place, il reste des places. Vous pouvez cliquer dans le lien que les modérateurs vous mettront à disposition et que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avance pour cette émission exceptionnelle. Les chroniqueurs, chroniqueuses, ça va toujours ?
Oui.
Toujours.
Quelqu'un du public m'a donné un bretzel.
C'est vrai.
Allez.
Franchement, ma soirée est refaite. Là.
Elle m'a dit, je vais le marier ou je vais la marier. Je ne sais pas qui c'était, mais...
je suis une femme simple.
On est super content d'être à Strasbourg pour cette émission. Je vous propose que nous accueillions notre première invitée politique. Il s'agit de la députée européenne Les Verts, élue depuis 2009, qui ne se représente pas. Il s'agit de Karima Delli. Bonjour. Merci Karima Delli d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je vous propose d'accueillir notre deuxième invitée politique. Cette semaine, nous recevons légalement députée européenne, cette fois-ci du groupe Renew, élue depuis 2019, ancienne sénatrice et ancienne maire de cette très belle ville de Strasbourg, Fabienne Keller. Merci Fabienne Keller, merci Karima Delli, merci à toutes les deux d'être venues. On voulait vous recevoir sur le plateau de Backseat. On va parler d'Europe, on va parler de vos mandats d'eurodéputés. Vous venez de terminer, c'était la dernière session, c'était aujourd'hui ce mandat. Vous allez nous en parler. Mais avant ça, Malek, je crois que tu connais déjà Fabienne Keller. Toi.
Alors, on va croire que c'est un running gag. À chaque fois qu'on a un invité politique, j'ai une anecdote avec. Vous êtes peut-être en train de vous demander qui est concerné parmi vous deux.
Elle.
C'est Fabienne Keller.
Fabienne Keller.
Fabienne Keller, on s'est vu le 2 novembre 2016.
Ah, voilà.
une lointaine époque.
Le ton est très drama.
On est donc sur la primaire LR de 2016. Je suis originaire d'Argenteuil. J'habite sur le Haut-Val-Nord, sur la
Avec
dalle d'Argenteuil.
On a visité.
Visite d'Alain Juppé, exactement. Je m'étais permis d'intervenir parce que, disons les choses, cette visite était complètement orchestrée. Il n'y avait aucun habitant du quartier. Il n'y avait que des habitants à droite, à gauche. C'est vrai qu'à un moment, j'ai un peu craqué. J'ai voulu interpeller Alain Juppé. J'ai été attrapé par son service d'ordre et malheureusement, je n'ai pas pu poser ma question comme je le voulais. Et on vous voit, il y a une vidéo qui tourne sur YouTube notamment, et on vous voit juste devant avec le service d'ordre en train d'essayer de protéger Alain Juppé de ma personne. Alors que je suis un gentil garçon, je vous assure. Non,
c'est faux, il est dangereux.
C'est pas
donc voilà, mais je suis content de vous retrouver aujourd'hui.
Ouais, moi aussi, mais... Vous m'étonnez parce que on visitait un centre de santé.
Alors,
c'était plutôt assez cool.
Ça, le centre de santé, c'était la version officielle pour pouvoir justifier le déplacement avec monsieur le maire Georges Motron. Mais la vérité, c'est que vous avez fait une petite visite du quartier, vous avez fait un petit pot ensuite dans un café, un salon de thé où il n'y avait aucun habitant d'Argenteuil. Vous avez visité également une maison de quartier.
C'était Alain Juppé, c'était pas Fabienne Keller. Hein.
Non, c'était Alain Juppé. Et moi, surtout, ce qui m'a interloqué, c'est qu'Alain Juppé venait défendre un discours différent de celui de Nicolas Sarkozy ou de François Fillon par rapport aux jeunes de quartier. Mais il était accompagné de Georges Motron, maire d'Argenteuil, fondateur de la droite populaire, qui avait notamment dit quelques jours auparavant qu'à Argenteuil, il y avait des vagues d'immigrés difficiles à digérer. Voilà.
Oh.
Et ça m'a fait
Ça laisse des traces.
Ça m'avait mis un petit peu en colère.
Vous vous souvenez de cette campagne de 2016 ?
Je m'en souviens, mais moi j'aime beaucoup Alain Juppé, pas le maire d'Argenteuil, parce qu'en fait il a comme à Strasbourg des quartiers fragiles, il était plutôt proche de ses habitants à Bordeaux, il a fait des rénovations urbaines, il a été sur le terrain pour œuvrer avec les assos, parce qu'on ne peut rien faire sans les habitants des
quartiers fragiles. En tout cas, pour parler de la campagne d'Alain Juppé, très bon service d'ordre, ça je vous le dis. Ils m'ont attrapé, ils m'ont tendu le bras, c'était magnifique.
C'était nickel, c'était bien organisé. Parcours différent, toutes les deux, Karima Delli, Fabienne Keller, groupe différent, mais vous êtes toutes les deux députées européennes. Un mot pour commencer sur cette dernière session plénière du mandat, en quelques mots, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Triste ? Contente ? Le sens du devoir accompli ou...
Moi, je me sens plutôt très contente de ce que j'ai fait et d'où je viens, en fait. Tout simplement parce que tout à l'heure, je vous écoutais un peu. Malek, tu balances direct, donc je...
Non.
Moi, à aucun moment, quand je suis rentrée là... Ça fait 15 ans que je suis là, en fait. Vous voyez,
ouais, 2009.
Et quand je suis rentrée ici, moi, j'ai un... En fait, depuis toujours, je suis ce qu'on appelle une anomalie sociologique. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis la 9e de 13 enfants, je suis née à Roubaix. Ne partez pas tout de suite. Voilà. Et j'ai des parents qui ne savent pas lire et écrire, et mon père était ouvrier textile. Et jamais dans ma vie, mais au grand jamais, on m'aurait dit qu'un jour, je serais la première femme présidente au Parlement européen à diriger l'une des plus grandes commissions des transports. Parce que je crois que c'est ça aussi qui est... Tout à l'heure, vous avez parlé des quartiers populaires qui m'a beaucoup touchée. Parce que depuis trop longtemps, on ne montre pas, au fait, ou on ne dit pas assez que tous les talents, et nous sommes des talents, voyez, et qu'on arrête de penser à notre place. On a autant de compétences et de talents que n'importe qui. Alors c'est dur pour nous. Et il faut le dire, c'est plus dur pour nous parce que moi, quand je suis arrivée ici ou dans les études, parce que j'ai fait un BTS action commerciale, j'ai vendu plein de trucs, et personne ne m'avait dit Sciences Po, c'était possible. J'ai fait Sciences Po, mais j'ai galéré au fait. J'ai galéré parce que je n'avais pas les codes, voyez. Et pourtant, cette maison, quand je suis arrivée, alors c'était très drôle, quand je suis arrivée dans cette maison, et c'est pour ça que je suis très nostalgique aujourd'hui, on m'a dit, alors déjà, on ne me prenait pas pour une Française. On croyait que j'étais espagnole, portugaise, grecque, etc. Alors on me parlait en italien, etc. C'était marrant. Et quand je dis je suis la France, tout le monde regarde ça de manière extraordinairement, les yeux qui pétillent, parce qu'ils disent la France, on est capable de montrer que ce genre de parcours est possible à ces postes-là. Et je crois que la France a oublié quelque chose, de dire... On est tous des enfants de la République, et quand on est à la tête de ces postes à responsabilité, ben c'est à nous d'ouvrir les portes et les fenêtres. Mademoiselle, vous avez dit tout à l'heure, notamment la génération qui vient. Donc allez-y, demain c'est vous. Et voilà.
Et vous, Fabienne Keller, une journée qui est marquée également par un long discours du président de la République, Emmanuel Macron, ça doit... Vous l'avez pris comment, comme un professeur qui tape sur les doigts de ses députés, ou qui au contraire met en avant le bilan ?
Alors pour nous, c'était un petit peu compliqué, puisqu'on a vu le début en équipe, hein, on l'a regardé, toute la délégation française de mon groupe. Et puis ensuite, on a, en même temps qu'on votait, regardé les fils d'information, puisque c'était simultané. Non, c'est un acte pour nous de la part du président qui ne nous surprend pas, parce qu'il a une vraie vision de l'Europe, sur l'avenir de l'Europe. Et donc on l'attendait depuis déjà presque un an, hein, ce grand discours, notamment en lien avec cet événement incroyable qui nous est arrivé pendant ce mandat, c'est la guerre. L'Europe, c'est presque 80 années de paix, et puis boum, la guerre qui revient à nos portes. Donc il avait été très, très visionnaire en 2017, il l'a été à nouveau, vous n'êtes pas surpris, je suis du groupe qui représente la majorité présidentielle. Donc une séance qui était marquée par ce discours-là, mais quand même à Paris. Et puis, au sein de l'hémicycle, un mélange de grandes émotions et de tensions, parce qu'on votait encore, pas mal de rapports.
Beaucoup de votes aujourd'hui.
Et puis, il y a eu des prises de parole, alors très brèves, parce que tout le monde veut être efficace dans ce Parlement, mais des prises de parole très émouvantes de gens qui quittaient, par choix pour certains, par choix de leur parti pour d'autres. Donc pour d'autres, c'est douloureux. Donc une grande émotion très partagée.
Safia ?
Non, mais je crois que Karim Adeli voulait réagir justement.
Plusieurs choses. Il y avait beaucoup d'émotions parce que c'est... Vous savez, le Parlement européen, souvent, nous, en France, dans beaucoup de partis politiques, on envoie les gens qui n'ont rien à faire ou qui attendent. C'est salle d'attente.
Ça a souvent été vu salle comme ça.
Salle d'attente. Ouais. Ben, oui, mais moi, je peux vous le dire. J'ai le nom des Français qui ne bossent pas. Hein. Et vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, on envoie les parlementaires dans cette salle d'attente qu'on appelle le Parlement pour une autre... Ils attendent l'autre élection, vous voyez. Et alors que dans les autres pays, ils se battent pour venir ici parce que tout se fait ici. Au Parlement européen, c'est la législation. Et moi, je suis écolo parce que, oui, on peut avoir être des quartiers, venir de classes populaires et être écolo. Oh. Voilà, ça, je le dis aussi. Parce que souvent, on pense que les écolos, c'est pour les bobos. Moi, je ne connais pas les écolos bobos. Je pense que tout le monde est écolo, et avec une fibre un peu plus populaire, comme moi je l'aime. Et donc, ce qui était quand même assez fou dans l'hémicycle, c'est de voir ceux qui ont un ego, ils ont besoin de leur vidéo pour partir en campagne, et ceux qui sont sincères, vous voyez ? C'est-à-dire ceux qui ont bossé, c'est leur dernier mandat. Moi, je n'ai pas pris la parole, on m'a proposé de prendre la parole, parce que ça fait quand même 8 ans que je suis à la tête de cette commission, et je n'ai pas voulu, au fait. Je n'ai pas voulu prendre la parole, parce que je trouve que... ici, et ce qui me plaît, c'est qu'on n'est pas dans une bataille d'ego. Le Parlement européen, c'est une équipe. On porte les intérêts européens, vous voyez. On n'est pas là, ce n'est pas la cour de récré, hein, au Parlement européen. Quand je vois la politique un peu française par moments, ça me fait de la tristesse parce que je trouve que c'est un peu trop la cour de récré.
Mais est-ce que ça ne permet pas justement de politiser le débat pour les gens, que les gens comprennent? Parce qu'en réalité, l'Europe est peut-être des débats aseptisés, ça ne nous parle pas.
Bah, c'est parce qu'ils ne sont pas du tout aseptisés. Le problème de fond, c'est qu'on en parle quand ça devient la faute à l'Europe. Où tout ce qu'on fait de bien, on ne le dit pas, on dit hey, « c'est la France, c'est tel ministre, c'est tel maire, il coupe des rubans, il ne nous invite jamais d'ailleurs. Ah, » bah, c'est vrai, moi j'aimerais bien couper des rubans aussi. Et on ne dit jamais que c'est l'Europe, vous voyez? Mais derrière, c'est des combats de dingue.
Ah bah, parfois, on le dit, parce qu'il y a le mouvement des agriculteurs. Le mouvement des agriculteurs, en l'occurrence, il a pu repolitiser toute la question européenne. Bon, après, nous, dans notre génération, il y a eu la question de la guerre, de l'inflation, de voir des migrants mourir rapport à Frontex, il y a eu le Covid. Et là, dernièrement, il y a le mouvement des agriculteurs qui a remis un peu, on va dire, des questions européennes dans tout ça. Mais là, le mouvement des agriculteurs, ça a été très particulier. Et là, moi, ma question, elle s'adresse à vous deux pour le coup. C'est qu'on a vu un Emmanuel Macron qui a pas trop voulu parler Europe, qui a dit bon, bah, du coup, face à cette colère, on va abroger le plan éco-phyto. Donc ça, c'est à l'échelle nationale, mais on peut pas se mentir que sur la question des pesticides, c'est un travail à l'échelle européenne. Et je le dis d'autant plus qu'en fait, nous, ça nous concerne dans notre alimentation. Mais moi, par exemple, je travaille sur les ouvriers agricoles en Martinique et en Guadeloupe qui ont été pollués par la question du chlordécone. Aujourd'hui, il y a plein de cancers, il y a des ouvriers qui meurent, toute la population est contaminée. Là, le chantier, il en est où actuellement?
Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, l'agro-business, ils sont plus forts que tout. Et tout le monde ils mettent nos agriculteurs à genoux. Quand les agriculteurs sont dans la rue, pourquoi ils sont dans la rue? Mais parce qu'ils ne vivent plus de leur travail. Un agriculteur sur deux, aujourd'hui en France, se suicide. Ils vivent avec 700 euros. 700 euros par mois. On ne peut pas vivre avec 700 euros. Et ensuite, on a une PAC. Alors, c'est une politique agricole commune. C'est une des grandes politiques à l'échelle européenne. Donc, ça, c'est génial. Vous voyez? Sauf que le problème, c'est qu'elle est injuste, cette PAC. 80% des aides vont déjà aux 20% les plus gros. Et comment ça se fait que ça, c'est comme ça? Et nous, on se bat au Parlement européen, nous, les écolos. Le problème de fond, c'est qu'on est encore minoritaire. Vous voyez?
Fabienne Keller, ça a repolitisé l'Europe, la question des agriculteurs?
Oui, clairement. Et c'est bien qu'on en ait parlé à cette occasion. Vous avez raison de rappeler les scandales. Avec le recul qui fait qu'on connaît les conséquences des produits utilisés. Alors que le débat porte souvent sur des produits assez nouveaux ou sur lesquels on n'a pas un recul suffisant. Donc il n'y a pas de conscience. Hein. Le court terme, le problème du revenu qui est un problème réel, il faut que les agriculteurs puissent vivre. La question de l'équité... Est-ce que c'est juste ou pas? Je ne sais pas, elle a beaucoup plu, là. Il y a plein de problèmes de moisissure sur plein de plantes. Est-ce qu'on va empêcher des agriculteurs dont le revenu dépend de leur production d'utiliser certains produits fongicides qui vont éviter que la récolte soit largement perdue? Ou est-ce qu'on reste sur une ligne écolo? Parce que ce Parlement, en 2019, la préoccupation environnementale est très, très forte. Madame von der Leyen est amenée à prendre des engagements forts pour être élue par ce Parlement. Hein. C'est très partagé. Ou est-ce qu'on respecte cette ligne? Alors, de temps en temps, il faut savoir faire une concession, mais il ne faut pas garder le cap, quoi. Parce que sinon, on va avoir des scandales comme ça dans 20 ans. Alors, permettez-moi de faire un autre commentaire. Allez-y. Sur le débat au Parlement européen. Il est assez difficilement lisible, parce qu'il est très, très différent du Parlement national.
Et ça, c'est vrai qu'il y a une culture parlementaire qui est très différente. Nous, on est habitué à l'Assemblée nationale en France avec ses... Son ambiance aussi, sa manière de travailler, sa majorité absolue, l'opposition.
Absolument. Or ici, il n'y a pas de majorité. Tout se fait par coalition. Tout se fait par compromis. Donc tout le monde est mécontent. Eh ouais. Non mais il faut comprendre ça. Donc c'est pas du tout simple et carré. Non, c'est un truc super compliqué. On prend le temps tous de comprendre quelles sont les opinions des autres. Alors ça aussi, c'est un truc qui n'est pas très fréquent en politique. Pourquoi ils ont telle position? Parce que leur pays, parce que leur territoire, parce que leur sensibilité comme ceci ou comme cela. Et puis on trouve comment, ce qu'on a en commun d'abord, puis comment, quelles concessions doivent être faites pour arriver à un accord d'ensemble. Un, ça prend du temps, donc ça ne rend pas terriblement lisibles les débats. Deux, ça donne des compromis, c'est comme dans une famille, hein. C'est pas hyper tranché, donc ce n'est pas toujours très facile à vendre. Cette culture de coalition, d'autres États européens l'ont beaucoup plus que nous. C'est le cas, par exemple, des Allemands. Ils passent très, très longtemps, hein, après les élections, plusieurs mois, à signer un accord de coalition, qui ne tient pas toujours bien, d'ailleurs, qui est parfois compliqué dans sa mise en œuvre.
Mais pas le même vote de scrutin, hein, sur la proportionnelle.
Moi, ce que je trouve très, 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 très intéressant au Parlement européen, c'est qu'on a fondamentalement envie de savoir, quelqu'un qui est dans la coalition, donc on écarte les extrêmes, qu'est-ce qui le passionne, pourquoi. Et au-delà, moi j'ai beaucoup travaillé sur un sujet très délicat, le pacte asile-migration, et au-delà des postures de départ, qu'est-ce qui vraiment motive la personne, motive son pays, motive son groupe, pour essayer de trouver, en responsabilité, parce que ce n'est pas simple, des pistes d'équilibre pour le texte final.
C'est aussi dans l'ADN un petit peu de la majorité présidentielle, ce compromis, cette coalition, on l'a vu hein, avec la loi asile-immigration en France, où en fait on marche main dans la main avec le RN.
Mais non.
C'est la réalité, Madame Keller.
Mais non, c'est Madame Le Pen qui a été habile, qui, alors que son parti avait voté contre.
Habile, attendez, Madame Keller.
Ne refaites pas l'histoire. Alors qu'elle avait voté contre au Sénat, en commission et en plénière.
Pas de sénateur.
Qu'ils ont voté. Pardon ?
Le RN, ils n'ont pas de sénateur.
Oui, enfin, ou a indiqué qu'ils étaient opposés au moment de la commission et de la plénière. Ils n'en ont pas deux non-inscrits ?
Aujourd'hui, ils en ont deux.
Ils ne sont pas tous barrés, tous les deux, pour aller chez Zemmour ?
Aussi.
Pardon. Reformulation, l'extrême droite.
Pardon, excusez-moi.
En tout cas, en commission à l'Assemblée nationale, ils votent contre. Et juste avant le vote, elle a tenté un hold-up. Et malheureusement, la majorité n'a pas réalisé qu'il y avait un changement de dernière minute. Mais non, en aucun cas, ce sont ces voix-là qui ont fait passer le texte.
Vous regarderez, il y a eu un très beau documentaire sur notre belle émission Backseat, vous regarderez sur YouTube. On avait prédit 237 jours avant le vote de la loi d'immigration avec Jean, que ça se passerait comme ça. Donc nous, on a réussi à le voir.
Alors, je vais vous dire un truc qui va vous surprendre.
Dites-moi.
Il y a plein de dispositions dans cette loi qui n'ont absolument pas été débattues, qui n'étaient pas dans les journaux et qui concerne la mise en œuvre du pacte européen. Par exemple, on simplifie les procédures de recours administratif. Il y en avait 12, maintenant il y en a 4, ce qui fait qu'en fait, elles étaient très mal mises en œuvre. Les droits des migrants étaient assez mal appliqués. C'était trop complexe, c'était très sinueux. Il y a la régularisation des travailleurs. L'idée générale, hein, c'est de clarifier la situation des gens pour qu'ils puissent avoir accès au logement, par exemple. Cette régularisation est rendue possible par ce texte. Ça va dans le même sens, hein, de procédures plus efficaces, plus claires, plus rapides que le texte européen. Personne ne l'a commenté longuement, alors que c'est quand même le minimum de donner un statut à des personnes qui contribuent à l'économie.
Karim Adeli,
Malek, je vais répondre tout de suite, parce que moi, pour nous, on est très cohérent entre ce qui se passe en France et ce qui se passe ici, nous, les écolos. On n'a pas voté ce pacte. Parce qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer. C'est de dire, mais au fait, personne dans le monde ne choisit de quitter son propre pays.
C'est vrai.
Vous voyez ? Personne. Et ensuite, s'il faut commencer à dire, bon, toi, tu travailles, on va te régulariser, donc tu as un avantage économique et pas les autres, sur ça, on n'est pas d'accord. Et pour nous, la ligne rouge qui a été vraiment, pour nous, c'est la question des enfants. La loi française, et qui est un petit peu redite entre les lignes, les enfants dans les centres de rétention, pour nous, ce n'est pas possible. Donc, sur ce pacte asile et migration, je crois qu'il manque toute la partie, et je vous le dis, hein, qui aurait dû être travaillée pour lutter contre l'extrême droite. L'Europe, quand elle naît au sortir de la guerre avec des valeurs. Et là, moi, je vous le dis, on est dans un moment où sont les humanistes ? Où sont nos valeurs ? Et je crois que c'est ça qu'il nous faut, en fait. Et je suis très en colère sur cette campagne, on aura l'occasion d'en parler. Mais on n'entend pas beaucoup hein, les Européens, les pro-Européens. Mais les pro-Européens avec une autre vision d'un nouveau chapitre de l'Europe. Parce que demain, qu'est-ce qui va se passer ? Tout à l'heure, vous l'avez un petit peu dit, j'étais hyper attentif. Mais demain, en fait, c'est les réfugiés climatiques. On va leur dire quoi ? Restez là-bas. Ben non, en fait. Le problème, il est ça, il est comme ça. Les réfugiés climatiques ne vont pas demander. Et donc, moi, j'ai vécu 15 ans ici et il y a un moment dans ma vie, franchement, j'ai eu les étoiles dans les yeux. Alors, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, c'est ce que lorsque Merkel est arrivée dans l'hémicycle. Elle est arrivée, mais véritablement comme un chef d'État. Elle a pris la parole
Et il a dit, face à la guerre en Syrie, je prends mes responsabilités. Parce que moi, qui vivais de l'autre côté du mur, je sais ce que ça veut dire être exclu. Je sais ce que ça veut dire manquer de tout. Et elle a dit, oui, j'ouvrirai les bras, notamment les stades, les gares, pour les réfugiés, 1 million.
1 million.
Et elle avait préparé ça. Et c'est là où nous, on est considérés, comme par l'Europe, comme le pays des droits de l'homme. Et je crois qu'on ne le sait pas assez, mais les autres pays nous regardent en permanence, vous voyez ? Et c'est là, attendez, je finis ça parce que je trouve qu'il y a un truc qui est incroyable. Elle avait préparé la population allemande, non pas sur des... Après, on a dit, oui, c'était économique. Non, les gens allaient dans les gares, ramenaient des vêtements. Et chaque match de foot allemand, il y avait ces banderoles « Welcome, refugees ». Et c'est là où l'Allemagne a sauvé l'honneur de la grande idée qu'est l'humanisme. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, vous voyez. Et c'est ça qui manque en Europe, par moment. Je suis désolée, Jean.
Mais justement, peut-être que
Jean,
peut-être cet esprit dont vous parlez, d'une population et des réfugiés qui organisent la solidarité, les banderoles « Welcome refugees », cet esprit-là, il est frappé de plein fouet par l'agence européenne Frontex.
Absolument.
De l'Union européenne. Absolument. Et c'est l'un des angles morts du pacte européen.
On est d'accord.
Pour l'asile et la migration. Et quand même, on a été confronté à des scandales successifs de gardes-côtes qui ont laissé des centaines de personnes mourir en Méditerranée, qui ont reçu des appels de personnes qui demandaient à être sauvées et secourues, et il y a eu des politiques de refoulement. On a appris, grâce à des enquêtes de journalistes, qu'il y a eu des négociations avec des États comme la Libye, qui laissent se perpétrer en son sein quand même une politique esclavagiste des personnes immigrées noires, dans des logiques de refoulement. Pour moi, ça a été l'angle mort, et je voudrais que toutes les deux vous puissiez clairement vous prononcer sur Frontex et qu'est-ce qui va devenir de cette chose qui, je pense, est en contradiction totale avec cet esprit de solidarité.
Fabienne Keller.
Alors, Frontex est une agence créée il y a, je sais pas, 10-15 ans pour épauler les États et renforcer leurs gardes-frontières, pour faire respecter leurs frontières. Parce que nous sommes un ensemble souverain, on a d'ailleurs défini une frontière commune qui est Schengen, et certains États, à certains moments, font face à une migration importante, voire une migration organisée. Moi, je suis allée, j'ai à mon actif une trentaine de déplacements dans le cadre de l'asile et de la migration. Je suis allée sur les îles grecques, à Lampedusa plusieurs fois, à Malte, à Chypre, et dans la plupart des États membres, notamment en Roumanie, aux Pays-Bas, enfin, voir ce qui se passait dans les ports également. Certains États membres, je pense à Chypre, par exemple, qui est en fait l'État membre qui a le plus de migration par rapport à sa population. Et donc, c'est la partie turque de l'île qui est régulièrement, où les Turcs laissent arriver des personnes, et la ligne verte se traverse très, très facilement. Frontex est là, et surtout l'agence d'asile, qui est une autre agence très importante. Donc, ce travail est utile. Par contre, ce travail, il est dans un cadre. Et les droits de l'homme, et surtout la Convention de Genève, c'est-à-dire le droit qui a été appliqué, tu le rappelais, avec honneur par l'Europe en 2015-2016, à protéger toute personne qui est persécutée, parce qu'il y a une guerre, donc ça c'est évident, c'est le cas syrien, mais aussi parfois pour des raisons plus individuelles, parce que c'est un lanceur d'alerte, parce que c'est un LGBT, il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est quelque chose qui est poursuivi, ont besoin, donc il faut assurer cette protection. Et pour cela, il faut être en mesure de le faire au moment où les faits arrivent. Donc Frontex est une sorte de police ou de garde-frontière à l'échelle européenne. Et donc, comme dans toute police, comme dans notre police nationale, il y a une inspection générale, il était prévu qu'il y ait 40 officiers des droits fondamentaux chez Frontex. La personne qui est numéro 3 sur la liste du Rassemblement national a refusé de les recruter.
Ah. D'accord.
Il est assez bien à sa place, finalement.
Oui, c'est ça.
Là où il est.
Mais on a fait une erreur. C'est-à-dire, on a attendu que ce gars-là aille sur la liste pour se dire « Ah, le travail de Frontex ne va pas bien. »
Déjà avant. Non, Karima, tu étais en commission des transports et dans d'autres commissions. Moi, j'étais en commission Libé.
Oui, justement.
On l'a interrogé.
Et moi, je suis Damien Carême, qui était dans ma commission.
Fabienne Keller.
On l'a interrogé. on a interrogé son conseil d'administration, parce qu'il n'est pas tout seul. Et on a créé un groupe de suivi plus précis pour ces pushbacks, hein, pour ces refoulements de personnes. On a auditionné le responsable des gardes-côtes italiens. Vous évoquiez des naufrages. Moi, j'ai en tête le naufrage il y a environ un an maintenant. Hein. Bon, il ne nous a pas répondu sur tout. Il dit que c'est la justice italienne qui est à peu près indépendante. On va voir ce qu'il en est. Mais dans le descriptif fait par Frontex, hein, du navire détecté et le responsable des gardes-côtes, il y a 6 heures de trou. Hein. Ils sont allés au contact de ce bateau. Puis ensuite, ils ont vu qu'il était, que tout le monde était naufragé et disparu. Donc, Frontex a une mission qui est claire, qui est de renforcer, dans le respect des règles nationales et européennes, et le respect de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de Genève, hein, donc l'obligation de non-refoulement, d'assurer sa mission. Et quand elle ne le fait pas bien, parce que c'est comme toutes les polices, la question, ce n'est pas est-ce qu'ils font certaines erreurs ou pas. La question, c'est en cas d'erreur, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le niveau de sanction et éventuellement de changement dans les méthodes ? Mais nous n'avions pas la structure en capacité de faire cette analyse. Et ce qui ne lui convenait pas, donc il a fini par démissionner parce qu'après, il y a eu également des reconnaissances de fautes graves et de mauvais management hein, en interne par l'organisme de lutte contre les fraudes européens qui s'appelle l'OLAF. Donc, nous avons mis en œuvre, nous, dès 2020, ses auditions. Il a démissionné en 2022, donc on n'a pas attendu qu'il soit sur la liste. Pour moi, c'est un homme maintenant en perdition. Par contre, la question pour les entités européennes, c'est d'assurer quand même cette sécurité des frontières. On ne peut pas non plus être complètement désorganisé. Et quand, via la Bélarus, la Russie en fait pousse des migrants à entrer dans l'Union européenne de manière complètement organisée et artificielle.
Mais pardon, mais nous, on paye des pays pour ne pas faire entrer des migrants. Donc nous aussi, on est dans une
Alors ça, c'est le sujet politique. De la Libye.
Et la Turquie, oui.
On va écouter Karim Adeli aussi qui n'a pas répondu à la question sur Frontex.
Je suis prête à vous répondre. Alors, il y a des explications très différentes dans les deux cas.
Moi, je trouve que normalement, l'agence Frontex ne devrait pas exister. Parce que normalement, on aurait dû mettre tous les moyens pour sauver 50 000 morts. La Méditerranée, c'est 50 000 morts, vous vous rendez compte ? Et au fait, on a 27 pays qui sont des égoïstes. Parce que sur la question de l'immigration, on a laissé pourrir la situation en Grèce, en Italie. Parce que c'est les premières portes d'entrée. On a attendu, on a attendu, on a attendu. Et si, malheureusement. Alors qu'à un moment, on n'est plus là, mais à un moment, il y a même eu la question de la répartition. Tout le monde devrait accueillir dignement. Et c'est l'accueil digne. Et moi, je peux vous le dire, je suis ch'ti.
Oui.
Vous pouvez sourire. Mais moi, je vois caler les conditions des migrants. Combien de fois j'ai fait des courriers ? Arrêtez de lancer des tentes dans les bennes en essayant de renvoyer les gens. Les gens qui sont là-bas, je vous assure, hein, parfois ils me disent en anglais, mais on est traité moins bien que des chiens. Ils ont des droits, ces gens. Ils espèrent à une chose, traverser la frontière. Et là, il faudrait vraiment avoir une diplomatie européenne. Et c'est là où ça manque. Ces gens-là ne veulent pas rester en France. La France, et je vous le dis, était le pays d'accueil. Aujourd'hui, c'est un pays dont même les réfugiés ne veulent pas rester chez nous. Je suis désolée de vous le dire.
Même certains Français
qui
ne veulent pas rester non plus.
Il y a ça. Et puis, il y a surtout des choses qui sont dites par l'extrême droite qui sont fausses. On nous dit, il y aurait une vague de migrants, là. Mais les flux les plus importants, c'est de sud à sud, mais en Afrique. Parce que ceux qui peuvent partir, c'est ceux qui ont les moyens. Et quand ils arrivent, ils ne vont pas profiter de votre sécurité sociale ni rien. Ils sont déjà grands. Ont des diplômes.
Quand on est présidente de la commission des transports, comment on fait concrètement, parce que vous parliez d'accueil digne, pour mettre en place des revendications concrètes pour cet accueil ? Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'accompagne des mineurs isolés qui actuellement occupent la maison des métallos Paris 20e. L'une de leurs revendications, c'est le transport gratuit pour pouvoir accéder à des formations à l'école.
Ben voilà,
et c'est pouvoir aller de pays en pays pour faire en sorte de se faire régulariser correctement. Que fait la commission des transports dans ce
Alors, la commission des transports travaille en lien directement avec notamment la commission sur cette volonté de travailler sur la gratuité. Le problème de fond, c'est que l'Europe n'a pas les pouvoirs, aujourd'hui je n'ai pas les pouvoirs sur les villes,
sur rendre gratuit. Donc ça, c'est la première... Attendez.
Après, on va parler de la campagne européenne.
Attendez. Donc ça, c'est la première chose.
Législatif
la deuxième chose, la deuxième chose qui, moi, me paraît très, très importante, c'est lorsqu'on a accueilli des Ukrainiens, etc., il y a eu des dispositifs tout de suite de déplacement, notamment dans les transports. Parce que quand on accueille partout pour les accompagner. Et donc, là aussi, il va falloir lutter. Parce qu'ils doivent avoir les mêmes droits. Et dernière chose, c'est que la gratuité, elle se fait aujourd'hui à l'échelle des pays. L'Estonie, gratuité. Le Luxembourg, gratuité. Alors, quand je dis gratuit, c'est pas juste les transports, hein. C'est aussi les trains, hein, demain, vous voyez. Et donc là, la véritable question, c'est que le droit à la mobilité ne concerne pas seulement les citoyens européens, mais devra concerner demain ceux qu'on accueille et qu'on doit accueillir dignement.
Fabienne Keller.
Voilà, c'est pas le sujet principal, mais un élément du pacte asile-migration, c'est de définir des conditions d'accueil par un texte qu'on appelle une directive, c'est-à-dire un texte d'encadrement. Il prévoit notamment les conditions de logement, les conditions de transport et les règles pour les enfants qui prévoient que l'accueil doit se faire, comme c'est dans la Convention des droits de l'homme, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc ce pacte, je ne voudrais pas qu'il soit caricaturé, on ne va pas passer l'émission là-dessus, mais qu'il soit caricaturé, il vise à faire respecter les règles, parce qu'il y a des règles aux frontières, c'est comme ça, mais à appliquer une solidarité en cas d'arrivée nombreuse entre les États membres, et pas juste la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, comme c'est le cas actuellement, mais à 27, et puis avoir de meilleurs traitements des demandes d'asile. Aujourd'hui, c'est pas bien ce qu'on fait. On fait attendre les gens. Et donc, ils sont mal accueillis. C'est une espèce de cercle vicieux. Les MNA ne sont pas correctement accueillis.
Mineurs non accompagnés.
Mineurs non accompagnés, donc ils sont protégés parce qu'ils sont, plus particulièrement parce qu'ils sont mineurs. Ils ne sont pas correctement accompagnés, ce qui est très mal. Parce que toutes les études sociologiques montrent que plus on est accueilli vite, et mieux, en fait, ça se fait. C'est normal, tu le rappelais. Nul ne choisit de quitter son pays par choix. Donc, c'est déjà un processus douloureux. Hein. On a quitté son chez-soi. Donc, il est important de pouvoir s'installer très rapidement. D'ailleurs, il y a une statistique qui est passionnante. C'est le nombre de migrants en Hongrie. C'est 27. Je pense que c'est une erreur statistique. C'est zéro, en fait. Pourquoi ? Parce que les migrants, ils ne vont jamais... Là où ils savent, la Hongrie de M. Orban, hein, qui est un dictateur qui fait sa propagande contre les migrants, parce qu'ils savent qu'ils n'y seront pas bien accueillis et donc qu'ils ne pourront pas s'installer et poursuivre leur parcours.
On est en pleine campagne des élections européennes, c'est en train de monter en tension. Lorraine, tu avais une question sur le renouvellement.
Il me semble que vous n'êtes pas candidate à votre réélection, toutes les deux. Oui.
Madame Keller, on attend encore la liste.
On attend la liste, oui.
On attend la liste. Ah, ok.
Voilà.
Mais vous êtes... encore mon
mais je suis candidate à la candidature.
Vous êtes candidate à la candidature. D'accord.
Ok, bon.
C'est le 9 juin, hein, je ne veux pas dire.
Pourquoi accélérer.
On est surpris jusqu'au 13 mai, je crois.
Mais bon, pourquoi pas. Mais donc, du coup. Donc, pardon, j'ai perdu ce que je disais. Donc, il semblerait qu'il y ait des petits. Des petites tensions chez les Verts, on dirait. Parce que.
J'ai l'impression que ce n'est pas que chez les Verts. Hein.
Non, mais notamment.
Mais il semblerait qu'il y ait des petites tensions chez les Verts parce que j'ai analysé votre feed Twitter, enfin X maintenant, et je n'ai pas vu de participation à la campagne de Madame Toussaint, d'Europe Écologie Les Verts. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est plus l'ambiance bouti-thérapie? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je me suis entraînée, je suis prête. Non, c'est pas ça, c'est que moi, je suis présidente de commission et jusqu'à là, et jusqu'à hier, vous savez, moi, je suis écolo, sauf que je préside une commission. Alors, je suis la première femme.
Vous n'avez pas fini votre phrase oui. Jusque-là, quoi?
Ouais, et jusque-là, en fait, j'avais des textes à gérer. Et pour moi, les textes à gérer, je vous donne un exemple très concret. C'est notamment, je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'arrivée des méga-camions en Europe. Des 60 tonnes partout sur les routes. Et donc, je suis en train de négocier parce que la prochaine réunion du Conseil, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et des ministres, il faut que la France dise non. Parce qu'autrement, si elle ne dit pas non, les Allemands, ils ont dit oui. Les Espagnols, ils ont dit oui. La Belgique, ils ont dit oui. Donc, si nous, on dit oui... On va avoir des méga camions qui passent chez nous. Donc, ce n'est pas possible. Donc, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire là, cette semaine, je ne pouvais pas réellement m'investir à fond dans la campagne parce que malheureusement, je suis aussi en train de négocier.
Donc vous maintenant, allez vous investir dans la campagne de Marie Toussaint.
Ça y est, on est
dès la
parti. Non, mais là, dès demain matin.
Allez, maintenant, la vraie version, Karima.
Donc, dès demain matin, en tout cas, moi, je pense que c'est une élection pour nous qui est indispensable. Et je vous le dis de manière assez sérieuse, parce qu'on a réussi à arracher en 2019 le Green Deal. Et je peux dire que le Green Deal, on est le seul continent qui donne un cap de lutte contre le dérèglement climatique. Moins 55% d'ici 2030. Le problème de fond, c'est que tout le monde a signé, tout le monde est content, mais tout le monde est en train de le détricoter. Et moi, j'étais furieuse contre le président Macron quand il a dit qu'il faut faire une pause environnementale. On n'a pas le temps.
Il l'avait dit avant.
Oui, mais on n'a pas le temps.
Mais vous étiez candidate à votre réélection ou pas?
Non, je n'étais pas candidate. Okay. Vous pouvez aller vérifier.
Ah non, mais je pose la question.
Non, j'étais...
Vous allez faire quoi d'ailleurs maintenant? Désolée, hein, je pense
alors,
que des questions qui fâchent.
On se revoit après.
Ok. Alors,
réinvitez-moi. Non, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, moi, je avec mon expérience, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé des choses.
Vous approchez, bah oui. Mm-hmm. Vous êtes bankable, Karima Deli.
Non, je suis pas bankable. C'est-à-dire que je pense que je vais continuer à travailler sur les sujets que je connais, les trains de nuit, plus de vélos. On va mettre en place la première politique industrielle du vélo, vous voyez. Mais je vous le dis tout de suite, je reviens en force pour. Ah ouais, non, mais je reviens sur le terrain. Je quitte pas l'Europe, mais je reviens en force en France pour faire la vraie politique.
Let's go.
Fabienne Keller, on l'a dit, il n'y a pas encore de liste Renew déposée. Valérie Ayer a un petit peu du mal à percer l'écran et à faire une campagne européenne digne de ce nom. L'écart se creuse avec Jordan Bardella. Dans quelle situation est la campagne pour la majorité?
Alors, on est complètement mobilisés hein, en termes de campagne. Ça fait de longs mois qu'on est sur le terrain, mais ce n'est pas très visible. C'est comme ça, parce que c'est peu médiatisé en France. On parle peu d'Europe. D'ailleurs, Jean Arthuis, quand je suis devenue députée européenne, lui quittait le Parlement, m'a dit que c'est la diète médiatique, en fait, quand on fait des choses européennes. Parce qu'en fait, on est sans cesse invité sur les plateaux à Paris, et on est soit à Bruxelles, soit à Strasbourg. Donc, ce n'est pas très commode. Et puis, parfois, on a des réunions, des votes à assurer. C'est d'ailleurs intéressant, M. Bardella et ses homologues des groupes d'extrême droite, ils sont tout le temps sur les plateaux. C'est parce qu'ils ne sont jamais chez nous. Moi, je peux vous dire, sur le travail, les travaux que j'ai pu faire, soit en commission BUD, soit en commission LIBE, ils apparaissent juste au moment des votes décisifs pour essayer de tout mettre par terre.
Ouais, mais tu les vois. Moi, je ne les vois jamais.
Ouais,
deux, trois fois,
en cinq ans, c'est pas mal.
Non, mais moi, je suis présidente et franchement,
ils viennent parfois.
Ils viennent pas.
C'est
hallucinant.
Vous dites Valérie Ayer n'est pas connue. Il se trouve qu'elle est patronne d'un groupe qui rassemble 25 délégations, 25 pays différents, 103 députés de 25 nationalités. Donc, elle est légitime ici. Nous étions ensemble, j'étais avec elle, sur les sujets de budget et de plan de relance. Les 750 milliards après la crise Covid, là, le plan Marshall pour remettre en route l'économie. Elle a été extrêmement combative, elle est très reconnue. Mais ça, c'est pas connu, ça n'existe pas en fait en France.
Mais moi, je pensais qu'on allait.
J'espère que les semaines qui nous restent créeront une focalisation sur les questions européennes et du coup débats de qualité. Vous y contribuez et je m'en réjouis vraiment pour que voilà, il y ait à cette occasion-là peut-être un peu une découverte ou des compléments d'infos sur ça compte pour nos vies quotidiennes ce qui est décidé en Europe, puisque assez régulièrement soit on décide d'argent, soit on décide de règles qui sont directement applicables.
Moi, je voudrais quand même dire un petit truc, s'il te plaît. C'est-à-dire non, mais moi je passe à mon père, vous voyez. C'est-à-dire l'ouvrier textile qui, s'il n'allait pas au travail, il n'était pas payé, au fait. Vous voyez ? Et les Bardella, etc., ils sont très bien payés parce que ça va quand on est député européen. Et ils foutent rien, en fait. Et moi, je trouve ça scandaleux pour les Français, mais aussi pour l'image de la France ici au Parlement européen. Parce que l'image qu'on va envoyer encore, c'est des gens qui ne travaillent pas et qui donnent une image, on s'en fout du travail parlementaire. Donc, il faut se réveiller sur ce volet-là. Il faut envoyer des gens qui bossent.
Merci beaucoup, Karima Deli et Fabienne Keller, d'avoir accepté de venir sur le plateau de Backseat ici à Strasbourg. Merci à toutes les deux. Je vais vous laisser quitter le plateau. Allez-y, merci beaucoup. On va conclure cette émission
Il nous reste que quelques minutes seulement, chers chroniqueurs, chères chroniqueuses. Merci beaucoup merci d'avoir toi, suivi Jean. Toute cette émission du
merci
début à la
vous.
Fin. Vous avez des trucs à annoncer, quand même, je rappelle. Malek.
Autour de moi, un épisode qui arrive très bientôt et le concert Solidarité Palestine le 22 mai, organisé par le label Houma Suite Houma avec plein d'artistes. Malheureusement, il n'y a plus de place, mais vous pouvez toujours faire des dons. On se retrouve au Zénith de Paris. Voilà.
Lorraine.
Ah bah moi je serais dans les rues, dans les campagnes, dans les villes. Non, je rigole. Non, mais ouais, je vais essayer d'aller sur le terrain, essayer de faire en sorte que les jeunes se réveillent et que on fasse au moins baisser le score du Rassemblement National. J'espère en tout cas. Donc déjà ça, et puis sinon, bah là il y a bientôt le mois des mémoires, donc des mémoires de l'esclavage. Qui commence du coup bah, ce week-end à l'Hôtel de la Marine. Donc là, ça va être pas mal de vidéos, de portraits, d'événements, de, etc. avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donc voilà, je serai non seulement dans les villes, mais aussi sur les réseaux sociaux du coup.
Merci beaucoup. Lorraine, Safia, on te retrouve où ?
Vous pouvez toujours suivre du coup l'actualité de la riposte antiraciste, le collectif que j'ai cofondé avec d'autres camarades. Là, on est sur deux chantiers. On suit la grève Donella, c'est des travailleurs et des travailleuses auxiliaires souvent de vie, d'aide à la personne qui sont actuellement en grève, dont beaucoup d'étudiants et d'étudiantes étrangers. Donc nous, on va dénoncer aussi l'exploitation et l'utilisation des étudiants salariés, des étudiants étrangers. Puis on a un autre chantier aussi très important, c'est populariser la cause des mineurs non accompagnés qui occupent actuellement la maison des métallos dans le 20e, qui organise une manifestation vendredi 26, mais c'est demain.
Oui. C'est voilà. Demain, incroyable. Et moi, je vous retrouve jeudi prochain, le 2 mai, pour une émission exceptionnelle à partir de 17h en partenariat avec Libération. On sera dans le grand amphi de la Sorbonne pour un jeu de rôle spécial backseat avec Fibre Tigre et on enchaînera avec le grand oral des têtes de liste à l'élection européenne, le tout en direct sur ma chaîne et en partenariat avec Libé. Merci beaucoup du fond du cœur à vous, le public de Strasbourg. C'est la fin de cette émission. Ciao tout le monde.